Ah, quel bonheur de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices. Qui est à l'antenne de Boulevard 102? Je salue tous les auditeurs et auditrices que j'ai croisés durant mon 3 semaines de vacances. Eh! Vous pouvez pas savoir le bonheur que vous me faites quand vous me reconnaissez et vous me dites « Hey, comment ça va, Jeff? Comment vont tes vacances? » J'adore vous jaser, j'adore vous connaître. Ça m'est arrivé sur la terrasse. J'étais sur la terrasse du Sapristi. Je pense que c'est le premier samedi de mes vacances. J'ai de la misère avec le temps quand je suis en vacances. Je sais pas quel jour on est, puis tu le quittes, mais... J'étais là, puis il y a un auditeur qui passe, Mathias Turcotte, je te salue, bonjour.
Bonjour.
Il y a un auditeur qui passe, puis qui dit « Hey, regardons ça! » C'est le Jeff Fortin en vacances. Là, je fais « Hey, comment ça va? » Puis je me mets à jaser un petit 2-3 minutes de même avec cet auditeur-là. Et Colin, que j'aime ça. Ah, j'aime ça, jaser avec le monde.
Ça m'étonne pas de toi,
non,
Jeff.
Non, vraiment ça.
Mais, mettons, ils viennent te voir. Tu finis-tu par avoir des vraies conversations avec eux ou c'est vraiment juste « Salut, j'aime ce que tu fais, salut, bye, puis... »
Ah non, je dirais régulièrement, ça prend 3-4 minutes.
Ah ouais, OK, ouais, quand
ouais,
même.
Ah oh, oui, quand t'approches Jeff Fortin, t'as le droit à sa concentration.
T'as le droit à un 4 minutes, un 4-5 minutes.
Exactement, là. Je suis pas... souvent, je suis avec d'autres mondes, fait que ça sera pas une grosse conversation de 20-25 minutes, là, on s'entend. Là. Mais je prends toujours le temps, je trouve ça important. On est choyé de faire le métier qu'on fait, on est choyé d'avoir des auditeurs. Merci d'être à l'écoute de Boulevard 102.1. J'ai adoré mes vacances. J'ai adoré mon 3 semaines de vacances, t'as pas idée. Je me suis rapproché de mes gars encore plus avec notre petit voyage à Toronto la semaine dernière.
C'était possible ça, de se rapprocher plus de tes gars que tu l'étais déjà?
Ouais, je pense, oui, honnêtement, oui. Je l'ai compté ce matin, là, il est doux là, qui m'a fait flancher au début des vacances quand il m'a regardé avec ses petits yeux de gars de 4 ans, les petits yeux dans l'eau, puis il a dit « Hey papa, je voudrais vraiment que tu sois mon entraîneur en chef au hockey. » Fait que je vais redonner mon nom, je vais coach en chef.
T'avais décidé de prendre ta retraite.
Ah,
finalement,
ça, j'ai réglé ça. J'ai réglé ça quoi? Au deuxième ou troisième jour des vacances. J'étais allé, j'avais des gilets à leur porter. J'avais été traîneux dans mes affaires cette année. Puis là, j'ai réglé ça. J'ai vu le DG Danny Chevalier, que je salue, qui fait un travail exceptionnel. Donc, Dave Pronovo aussi, technicien en chef. Puis là, je leur ai jasé. Tu me connais, j'étais en vacances. Fait que. J'ai jasé quoi? 25-30 minutes avec eux autres.
Ah,
j'avais le temps. Bon, faut pas le dire trop fort parce que Val, pendant ce temps-là, m'attendait pour aller chez le coiffeur avec Oli. Puis j'avais complètement oublié. C'est ça, les vacances.
Ah, fait que êtes-vous arrivé en retard?
À un moment donné, elle me dit « Hey, oui, il serait temps que t'arrives parce que j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. » Fait que j'ai dit « Ben oui, pourquoi pas? » Fait que je suis arrivé. Mais bref, j'ai joué avec eux autres. J'ai dit « Hey, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? » J'ai dit « L'année passée, je m'étais mis coach adjoint. » Mais dans les faits, finalement, vu qu'on n'avait pas de gérant, Vince, qui était le coach en chef, m'a comme dit « Hey, regarde, prends plus de place comme coach. Je vais jouer au gérant. » Puis là, ben finalement, je me suis retrouvé un peu dans un rôle de coach en chef que je voulais pas, mais j'ai trippé. Alors là, j'ai dit, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je leur donne mon nom de coach en chef. Allez-vous me prendre? Ils m'ont dit, oui, on te prend. Ben, j'ai dit, OK, c'est bon. J'ai dit, c'est où le formulaire? Va sur le site web. Fait que je te reviens à la maison, je remplis le formulaire.
T'as pris la décision, fait. Ça va rouler pour l'année à venir au
hockey. C'est fait, on va être coach en chef, puis on va s'amuser là-dedans. Fait que c'est ça.
T'arrêtes jamais. J'ose espérer que t'as réussi à décrocher pendant les vacances malgré ça.
T'as pas idée comment j'ai décroché.
Un point, là.
L'enfer.
Ah ouais.
Après 48 heures, la première affaire que je lisais, c'était des nouvelles de sport et des nouvelles de lutte.
Fait que c'était fini l'actualité. Donald Trump, on met ça au pied d'accord.
Je regardais un peu, mais ça veut dire que j'avais vraiment décroché. Puis ça, malgré ma mésaventure qui m'est arrivée. Puis d'ailleurs, c'est une question que j'ai à vous adresser au 418-971-1021. Comment vont vos finances? Avez-vous besoin d'une deuxième job pour arriver? Il m'est arrivé un malheur en début de vacances. Première journée de vacances, on s'en va faire du rafting. La vie était belle. Tout le monde dans le minivan. On était prêts à chanter du cowboy fringant. Puis la transmission de mon char a lâché.
Au complet.
Au complet.
D'un coup.
Patauk!
Hey my
faisait
God.
Un petit bruit le dimanche, puis là, ben le lundi, ça a décidé que c'était terminé. Alors, résultat, 6 000 $ de réparation.
6 000?
6 000.
D'un coup de même. Tu t'y attendais pas, là.
M'y attendais pas. En startant les vacances.
Hey, ça commence bien les vacances, ça.
Bingo!
Hey, t'es mérité tes vacances, Jeff. Hein? Tiens, un petit 6 000.
Un petit 6 000. Hey, mon Dieu. Fait que c'est pour ça que je vous pose la question 418-971-1021. Avez-vous besoin d'un petit salaire d'appoint, d'une deuxième job pour arriver? Parce que durant les vacances, Mathias, crois-le, crois-le pas, en plus de devenir entraîneur en chef au hockey, de le redevenir, ben je me suis trouvé une deuxième job.
Hein?
Ben pas chouette.
Pour pouvoir payer 6 000
$ Ben oui, parce que là, oublie ça, j'avais pas un coussin de 6 000 dans un. De deux, là, je me suis rendu compte, OK, mon char vieillit, fait que même j'ai plus de paiement, je vais avoir encore plus d'entretien à mettre dessus. Je suis allé en vacances une semaine à Toronto.
C'est pas donné, là.
Non, là, tu vas au Jays, tu vas au zoo, tu vas...
Faut que tu manges.
Là, une chance, on s'était loin d'appartement, fait qu'on a mangé souvent à l'appartement, mais quand même, c'est pas donné l'appartement. Alors, puis là, ben, tu vas faire plaisir un peu à tes gars, même si on 16 et 18, ils sont capables de payer plein de choses. À un moment donné, tu dis, hey, papa va payer le zoo, tu sais, puis là, ils sont contents. Fait que,
tu penses que ça t'a coûté combien pour ta semaine?
À Toronto?
Ouais.
Ben, écoute, non, je regarde ça. Si je le sépare en deux avec Val, c'est au moins chacun un 3 000.
Hein? Hey, puis là, on parle pas d'un voyage en Europe. Là.
Non,
parle d'une escapade à Toronto.
Oui.
3 000 chaque. Pas de billet d'avion. Là.
Pas de billet d'avion. Si on calcule le gaz.
Le gaz, le logement, la bouffe, les activités. C'est pas trop long que ça monte, là, 3 000 chaque.
Oui, ça monte. Ça monte. Bon, après ça, ben, on en parle tout le temps, l'augmentation du coût de la vie. Ça nous frappe en pleine face, l'augmentation du coût de la vie. L'épicerie, c'est plus donné. Hein. Même à Toronto, quand on allait faire l'épicerie, c'est plus donné. On s'entend? Même si on va... on court les maxis, les super-C de ce monde. Là, à Toronto, c'est la même... c'est les mêmes propriétaires. Ça s'appelle Basic. Je me souviens plus. Okay. Mais en tout cas, bref, on avait l'épicerie juste en face de notre appartement. J'ai un coussin de sécurité. Là, je regarde ma maison que j'ai achetée l'année passée avec Val. Bon, on regarde ça, on dit, bah, ben, d'ici 3 ans, on va changer les fenêtres et les portes. On aimerait ça changer le revêtement. Fait que là, c'est de l'argent, ça, là. C'est de l'argent anti-pêché. Puis ma blonde a déjà un deuxième emploi où elle fait des payes pour des pharmacies. Alors, j'ai dit, bon, ben je me lance. Je m'en vais dans un deuxième emploi.
Une deuxième job.
Et on va peut-être se croiser avec ma deuxième job.
Hein?
Puis t'es mieux de pas être tannant quand on va se croiser. Je suis redevenu arbitre de deck hockey.
T'es-tu sérieux?
Oui!
Et tu retournes vivre un calvaire.
Je suis retourné aux sources.
Oh mon Dieu.
Pendant mes vacances, j'ai arbitré 13 matchs.
OK, fait que t'étais en vacances, mais ça, 13 matchs, c'est
ouais,
c'est
mais
pas
un
mal.
Soir, un jeu du soir à Saint-Og, j'en ai arbitré 5 en passant. Hey, j'avais jamais vu le complexe de Conca à Saint-Augustin.
C'est beau en maudit.
Non, 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 mais c'est parce que c'est pas 5 étoiles, c'est 8 étoiles.
Ah non, c'est magnifique.
C'est malade.
Hey, le bord, l'énorme bord en rentrant,
ah
c'est
non,
capoté.
Non, j'ai dit, hey, je n'habitais pas à Beauport, ça serait à Saint-Augustin, j'arbitrais parce que tabarouette,
c'est
bon,
c'est vraiment hot.
Hey, puis j'arbitrais dehors, une belle soirée d'été, le petit soleil, tout. Ma première punition que j'ai collée pour trébucher, je me suis tout de suite fait chialer après, j'étais content, c'était réglé.
Ça commence en force.
Mais non, mais c'était réglé, j'ai dit parfait. Hier, j'ai expulsé mon premier joueur d'un match. Hey, écoute, j'ai été quand même assez patient. Ça m'a pris... C'est à mon 11e match que j'ai expulsé mon premier joueur.
Ben, regarde, t'as l'air content de recommencer à mettre du monde dehors au deck, là.
Ah, mais là, c'est un petit gars, là, dans ton
âge.
Oui,
oui, ah,
mais t'es prétentieux. Hey,
les jeunes, on est l'enfer au deck, hein.
C'est l'enfer.
Hey, non, ça n'a pas d'allure.
Hey, c'est un match
vrai,
mix
là.
Dans une catégorie M5. Écoute, il n'y a pas plus bas comme catégorie.
Jeff, quand je jouais au deck, ben, je joue encore au deck, mais là, une couple d'années, là, quand j'avais 18 ans, 18-19 ans, fait que là, 3-4 ans, on s'envoyait chier avec l'autre bar chaque game. Puis là, je m'inclus là-dedans, mais c'était pas moi. Je suis pas un gars qui bave ben au deck. Là. Mais mes amis, là, ça arrêtait pas. Ça chialait, ça criait, ça bavait l'autre bar. Puis je le réalise parce que maintenant que j'ai 22 ans, quand j'affronte des jeunes de 18 ans, même si c'est juste 4 ans de différence, ça n'a pas d'allure. Hey,
puis j'ai été gentil avec lui. Là. Tu sais, là, il s'était passé de quoi sa surface qu'il avait pas aimé. Je dis, gars, voici comment moi j'ai vu ça. Pas de trouble, man, reste calme, c'est un match goofy.
C'est relax, on est là pour le fun.
C'est relax, tatatitatata. Ben écoute-moi bien, il a planté une fille dans la main.
Ah, ah voyons.
T'sais, lui, à matin, il devait mesurer 6 pieds, puis la fille devait mesurer 5 et 1. Là. T'sais, tu vois le genre d'énergumène?
Ah, ça n'a pas d'allure.
Puis là, encore ça, malgré ça, j'ai quand même été gentil parce que je me disais, j'étais pas sûr de son intention. Fait que, tu sais, je l'ai même pas expulsé pour ça. Mais là, vu qu'il m'a gréé un peu, j'ai donné une mauvaise conduite en lui disant, hey, le prochain mot que tu dis, je te sors de la surface. Prends conscience que tu viens de planter une fille dans la bande. Je te donne un break. Ben, il a trouvé une moyen de me dire, hostie de trou de cul, il y a deux équipes sur la surface.
Ah!
Ben, j'ai dit, c'est terminé, mon beau. Tu vas aller apprendre ailleurs.
Hey, le manque de respect.
Hey, net de planter une fille dans bande.
Hey, mais pour de vrai, j'ai une pensée pour vous, les arbitres de deck. Là, j'ai joué la semaine dernière, vendredi soir.
Ouais.
On jouait au deck. Puis ça brassait pas mal, là. Mais à un point où, après la game, je suis allé voir le ref, puis j'ai dit, hey, merci, parce que les deux bords, on a été quelque chose, là.
Ah, oui.
Des fois, ça brasse.
Ah, oui, des fois, ça brasse.
Le monde commence à vous insulter, puis là, c'était mes chums aussi, là, qui commençaient à.
Ah, oui.
Là, j'ai regardé, j'étais comme les gars, là, on va se calmer un peu, là. Il est 9h50, le vendredi soir, c'est on joue au deck pour le fun, là.
T'sais, comme hier matin, j'ai arbitré de 9h10 le matin, midi et demi, tu sais, je joue au gars, hey, les boys, d'habitude, on a un café, là, tu sais.
Mais non, c'est ça, on relaxe. Mais t'es capable d'avoir une deuxième job, puis parce que t'en fais déjà beaucoup ici, là, puis les auditeurs le savent, là, le matin.
J'ai pas le choix.
T'es pas le choix. Mais ça te brûle pas d'avoir une deuxième job?
Ben, je le verrai, parce que là, je l'ai fait pendant mes vacances. Ouais. Je le verrai. Ce que je me suis dit, je suivais stratégiquement, OK? Ma blonde fait toujours de la cuisine le dimanche après-midi, puis elle veut rien savoir de moi, mais sa musique, puis dès qu'on lift, c'est mon moment de calme. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais aller arbitrer le dimanche après-midi. Fait que je me suis dit, le dimanche après-midi, c'est quand même pas si tant pire au niveau de l'horaire. Puis je me suis dit, je vais faire soit un jeudi soir ou un vendredi soir par semaine, en raison qu'on va plus être vers la fin de la semaine. Donc, pour le fait que je me lève à 4h le matin, ça devrait être moins pire. Fait que je vais essayer ça. Pour le moment, puis on verra au niveau énergie. Bon, c'est sûr que là, après hier, je me disais, hey boy, je fais-tu bien? Mais là, hier, j'ai décidé de prendre un remplacement, fait que j'ai fait 8 games. Ça, c'est beaucoup.
Hey,
ça,
8 games.
Okay. Oh, oui, ça, c'est
roulant, beaucoup. Maudit.
Ouais, fait que c'est pour ça que le petit fendant, ma 6e game, quand il est dessus,
tu vois, ouais, c'est
correct.
Tu t'en venais fatigué.
Je vais rasseoir mon autorité.
Parce que mais... je suis certain que certaines personnes qui nous écoutent ont une deuxième job, pas par choix, là, mais par obligation.
Ah, mais là,
ça
moi, ça
brûle,
sera vraiment
là.
Pas par choix, parce que là, écoute, là, je regardais le compte en banque, puis je me disais, je peux plus survivre. Là,
mais quand tu donnes 40, 50 heures quelque part, puis que tu te ramasses à avoir une deuxième job, c'est rough là, sur le mental.
Ouais. Vois-tu, Marie-Ève qui nous écrit « Je fais de l'over chaque semaine et j'arrive pas. Mon chum a un meilleur salaire, donc il compense. Moi, c'est mon air climatisé qui a lâché la première journée de mes vacances, 1300$. Marie-Ève, je te comprends, je sympathise avec toi. » Isabelle qui nous écrit « J'ai pas de deuxième job, mais je fais des choix. Juste prendre des week-ends de 4 jours cet été, pas de vacances à l'extérieur. » En effet, et carrément là-dedans, Isabelle, t'aurais dû voir ma deuxième semaine de vacances où j'ai mangé les restants chez nous toute la semaine. Non, mais c'était une belle semaine pareil. Je me suis entraîné, je suis allé courir dehors, j'ai joué au PlayStation. Moi, j'aime ça, je joue au PlayStation.
Fait que t'as plus
relaxé.
Me suis
diverti autrement. Oh, ça a vraiment été une. Écoute, je faisais des petites siestes d'après-midi juste pour reprendre de l'énergie.
Mais des fois, ça fait du bien, ça, de juste, tu sais, avoir des vacances surbookées, puis papapa, activité partielle. Tu finis, tu reviens à job, t'as même pas l'impression de. D'être ben, relax au final.
En effet, vois-tu, la première semaine, j'étais avec Val et ses enfants, puis on a fait des activités lundi, mercredi, vendredi, mais mardi, jeudi, à maison, tranquille, jeu de société, tout le kit. Ça a été une super belle semaine. Ma deuxième semaine, j'étais tout seul, j'ai relaxé à plein, parce que là, je savais qu'on s'en allait à Toronto pour une semaine, puis qu'on était justement dans une semaine où on allait faire plus d'activités, puis je voulais pas revenir à job brûlé de ma semaine à Toronto. Donc, j'ai fait en sorte que j'ai réussi à bien gérer mon niveau d'énergie. Mais non, c'est ça. T'sais, puis je suis pas en train de me plaindre du salaire que je fais ici à Leclerc puis des conditions que j'ai. Je suis super bien traité ici. Mais c'est juste que la vie est faite ici. Le coût de la vie a tellement augmenté qu'à un moment donné, j'ai dit, ben j'ai pas le choix, il faut que je contribue.
Ben ça augmente, aussi. Ça vient difficile d'équilibrer le budget à la fin du mois. Là, puis je veux dire... t'es pas tout seul là, non plus dans ta situation. Là, si je me souviens bien, c'est environ 50% des Canadiens qui vivent à 200$ près. Là.
En plein ça.
Fait qu'un bris mécanique de 6000$ quand tu vis à 200$ près,
c'est ça.
Il n'y a pas moyen
d'arriver. Non, non, ce bris mécanique-là m'a fait frapper ce mur-là. Puis j'ai dit, bon, ben go, faut que je contribue. Ma blonde contribue énormément avec son deuxième travail, justement. Puis d'ailleurs, je l'ai dit ce matin, mais je le redis, merci à mon entourage. Merci à Val, qui, avec le fait que j'ai 6 000 $ à payer sur ma transmission, a dit, hey, j'en prends beaucoup plus sur mes épaules au niveau financier pour Toronto. T'as à titre d'exemple à payer l'appartement puis okay. les billets de baseball.
Ben c'est, hey, ça, c'est vraiment smart.
Merci, chérie. Je me sens vraiment très, 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 très bien appuyé. La mère des enfants, Cynthia, qui m'écrit, qui dit « Hey, j'ai appris ce qui t'est arrivé, gars. Écoute-moi, les trucs de foot qu'il faut acheter, les trucs de hockey pour les boys, donne-moi 100 $ puis je m'occupe du
reste. » OK, crime.
Je fais « Tabarouette, wow! » c'est vraiment très, très, très généreux. De sa part, écoute, elle revient de la Floride avec les enfants, puis elle est en train de faire les marches chez eux. Fait qu'elle aurait pu dire « Hey, man, tu vas payer ta moitié quand même. »
J'ai des dépenses aussi.
Exactement. Fait que c'est vraiment, vraiment très, très, très apprécié. Mes parents m'ont prêté leur char pour aller à Toronto. Vu que mon char était pas prêt.
C'est là que tu vois que c'est important de bien entouré dans
ben oui. Mes parents ont dit hey, quand, voilà le char. Puis là, j'ai dit, comment vous allez vous organiser? Inquiète-toi pas, je suis allé voir mon garagiste, il m'a prêté une Corolla. Mais tu sais, là, mes parents sont rendus à 75 ans. Là. S'asseoir dans une Corolla, c'est beau, c'est tough
pour eux autres. C'est pas ton char non plus.
Mais non, c'est pas ton char. Puis ils sont sacrifiés pour le bien-être de moi et mes enfants. Fait que, franchement, merci énormément.
En tout cas, je suis content d'entendre que, somme toute, malgré cet imprévu-là, vacances, ça s'est bien passé, Jeff.
Vraiment.
On est content que tu sois de retour. Puis d'ailleurs, au 88-971-1021, si vous voulez souhaiter bon retour à notre ami Jeff Fortin, donnez-lui une belle vague d'amour parce que je pense qu'on est tous contents de son retour en onde aujourd'hui.
Merci beaucoup, c'est super, super apprécié. Justement, hier, en arbitrant de hockey, c'était drôle parce que j'arbitrais sur la surface qui s'appelle Tie Zone au de hockey de la capitale, mais c'est tapissé boulevard. Fait que je trouvais ça drôle.
Oui, c'est vrai.
J'étais sur la surface boulevard.
Ça te donnait le goût de revenir.
Ben oui, puis là, j'ai un auditeur à la fin du match qui vient me voir. Il dit, c'est Jeff Fortin de boulevard. Oui, fait que là, j'ai jasé avec. Fait que si vous me croisez, vous allez me croiser sur une surface de deck hockey, venez me saluer. Soyez cependant très courtois envers Jeff Fortin, l'arbitre sur une surface de deck hockey. J'appelle les punitions que je vois. Puis des fois, il y en a que je vois pas. Je suis humain. Je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux? À la météo, veille d'orage violent. Pour Québec et pour pratiquement l'ensemble de la province, c'est plusieurs millimètres de pluie qui vont tomber fin d'après-midi, ce soir, cette nuit. On va justement terminer l'émission avec Nicolas Lessard, météorologue pour Météo Média, qui va nous expliquer tout ce qui va se passer dans notre ciel aujourd'hui à Québec et sur l'ensemble de la province. Donc, c'est à surveiller. C'est ce qui se passe à la météo. Maintenant, au niveau de l'actualité, Mathias, qu'est-ce qu'on doit suivre?
Ben, j'ai pas le choix de vous dire que c'est une journée somme toute tranquille en actualité, mais il y a quand même de quoi de gros qui est tombé ce matin. C'est une entente de principe entre les agents de bord de WestJet et la compagnie aérienne qui met donc fin à la grève qui avait été entamée hier matin, vers 2 h du matin. Ça avait mené à l'annulation de plusieurs centaines de vols. Finalement, on a trouvé une entente de principe qui donnerait des crédits de vol supplémentaires, des primes supplémentaires justement aux agents de bord. On reste à voir, est-ce que les agents de bord vont accepter ou refuser l'entente de principe? Si jamais ils refusent, ça ne veut pas dire qu'on retombe en grève. Il y a certains mécanismes qui sont mis en place pour trouver une entente malgré tout.
On écoute justement Marc Rangé par rapport à ce conflit de travail qui est en entrevue avec nous dans Marceau le matin, ce matin aux alentours de 8 h 30.
Parce que c'est jamais long, les conflits dans le transport aérien, pour une bonne raison, c'est que les impacts sont tellement importants sur chacune des parties. Évidemment, la clientèle en premier, mais WestJet qui perd énormément d'argent et en plus son image qui est écorchée. On l'a vu chez Air Canada aussi. Fait que donc, c'est une pression qui est maximale. C'est pas des conflits qui durent longtemps. Par le passé, souvent, le gouvernement est intervenu pour mettre fin aux conflits, alors que pourtant, les gens ont droit à la grève. Fait que là, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement n'est pas intervenu. Il y a une entente de principe et qui est certainement survenue suite au marathon là, de la nuit dernière.
Très, très, très positif. Par contre, la question qu'on se pose, Mathias, là-dedans, c'est est-ce que les syndiqués vont voter en faveur de cette entente de principe? Parce qu'on se souvient, Air Canada, c'est 99% des syndiqués qui avaient rejeté le tout. Ce qui a permis à Air Canada de recommencer, c'est le fait que dans l'entente de la convention collective, il y avait une clause qui disait, bien, si on ne s'entend pas, c'est un tiers parti qui va justement prendre en charge le tout. Et c'est justement la question que Marc Rangé se pose.
Mais tu sais, ce que je vais vérifier, je vous le disais tous les trois, là, moi, ce que je vais vérifier, est-ce que l'entente de principe comporte, comme chez Air Canada, une clause que si les membres rejettent, il n'y aura pas d'autres conflits possibles. Et dans le fond, il ne retourne pas à table de négo. C'est un tiers, un arbitre de différent qui va trancher le salaire. Air Canada, on s'en rappelle pas, là, on a mémoire courte, mais l'année passée, là, après 3 jours à défier une grève, à défier le gouvernement, ils sont rentrés, mais les membres ont voté à 99 % pour rejeter ce qui était sur la table comme salaire. L'arbitre de différend a tranché. Les membres n'ont pas pu retourner en grève.
Donc, j'espère qu'il va y avoir ceci dans l'entente avec
WestJet. Je pense
West
que c'est nécessaire.
Parce que c'est très nécessaire. Puis c'est pas drôle parce que présentement, je l'ai dit ce matin, je l'ai partagé avec Marc Rangeau. Moi, je trouve que WestJet n'a pas pris ses responsabilités. J'ai même dit que c'est une compagnie de cabochons parce que, écoute, les voyageurs sont pris partout. Ils essayent d'appeler. Il n'y a pas de réponse au bout du téléphone. Ils se présentent dans les aéroports. Il n'y a personne au comptoir.
C'est fou, Red, ça. Hey, t'imagines-tu, t'es pris à l'étranger.
Ben oui.
T'es pris à l'autre bout du monde. Puis tu veux juste avoir des réponses sur quand tu vas pouvoir rentrer à la maison. Puis t'es pas capable de les avoir.
Exactement. J'ai parlé par texto tout à l'heure avec Audrey Perrault, justement, qui est une Québécoise qui est prise à l'extérieur. Si je me souviens bien, c'est au Mexique, là. Ne pas m'en vouloir, je n'ai pas la bonne destination. Et. Elle me disait, ben écoute, je peux pas te donner d'entrevue à midi parce que là, à partir de midi, faut que je refasse des démarches pour savoir si je peux avoir une chambre à soir.
Oh mon Dieu!
Parce que ce qu'elle m'expliquait par texto, c'est que là, ce qu'on lui proposait, c'était soit un truc où il y avait 4 escales. Mais là, t'as des jeunes enfants, disons,
hey, 4 escales.
Ou sinon, ben là, évidemment, Air Canada a profité pour jumper ses prix. Fait qu'elle dit là, j'avais des billets d'avion qui seraient pas tous remboursés par WestJet. Écoute, je suis parti en voyage, moi, j'avais X budget. Fait que là, elle est comme prisonnière là-bas. Ça se peut qu'on lui parle demain matin. Donc, bien hâte de l'entendre. Mais bref, c'est ça que WestJet fait. Il abandonne ses clients. Elle prie là, elle.
On donne la possibilité. Non, non, mais on t'accommode, là. T'as juste à passer une semaine en avion, faire 10 destinations différentes, puis tu vas pouvoir revenir à la maison, là. C'est un beau compromis, non, Jeff?
C'est sûr, c'est sûr, On a Simon qui nous écrit, j'espère, moi aussi, qu'il va avoir cette clause-là, parce qu'il part lundi en vacances en avion. Puis je sais que Simon a une belle petite jeune famille, fait que je te le souhaite, mon ami Simon, qui est toujours à l'écoute. On t'apprécie grandement. Donc, c'est ça. On va suivre le dossier de près concernant WestJet. C'est pas parce qu'il y a eu cette entente de principe-là que les clients sont sortis du bois. Loin de là. Il y en a plein qui n'ont pas pu partir. Vont-ils pouvoir repartir? Comment ça va fonctionner? C'est triste parce que, tu sais, je le disais tout à l'heure, les vacances, ça coûte de plus en plus cher. Puis les gens doivent économiser puis serrer la ceinture de plus en plus pour partir en vacances. Puis là, quand des situations comme ça t'arrivent, ça n'a juste pas de sens.
Le RTC offrira un service de navette durant le festival La Cigale du 7 au 9 août prochain. Ça a été annoncé au cours de la dernière heure. En gros, le service qui va être mis en place, c'est le vendredi à partir de 18h30. Des navettes qui vont partir du centre-ville, Charlebourg et Beauport pour se diriger directement à la baie de Beauport de 18h30 jusqu'à 00h30 pour le vendredi. Et pour le samedi et dimanche, ça va de 14h45 jusqu'à 00h30. Donc, vraiment pour y aller et pour revenir par la suite. Donc, vraiment un beau service mis en place par le RTC pour le festival.
Je l'ai pris l'an passé. Ça roule tempête. Honnêtement, la baie de Beauport est un endroit où tu peux pas te rendre en char. Là. Prenez le transport en commun. Prenez le transport actif. Hey, j'ai été assez surpris. Le nombre de vélos qu'il y avait.
Qui circulent.
Hein? Les gens s'en vont là à vélo. Il y a un très gros enclos, justement, pour que tu attaches ton vélo. C'est complètement capoté, le nombre de vélos. Le nombre de monde qui vont à Cigale à vélo. Donc, prenez le transport actif, prenez le transport en commun. C'est le meilleur moyen de se rendre à ce très, très, très beau festival à la baie de Beauport.
Avec la fin des vacances de la construction, c'est l'heure des bilans aussi. Le bilan routier n'est pas nécessairement très positif. On parle de 18 personnes qui ont perdu la vie sur les routes dans 15 collisions différentes. On parle 6 motocyclistes sur les 18 personnes, donc quand même très, très présent. Ce qu'on nous dit, c'est que pour pas mal tous les accidents, les enquêtes ont révélé qu'il y avait un facteur humain qui était en cause, donc une responsabilité humaine. Donc c'est quand même un rappel de faire attention sur les routes et de rester attentif.
On peut pas savoir comment ça roule vite, ces autoroutes. C'est capoté. J'ai fait Québec-Toronto aller-retour.
Puis pourtant, on pourrait croire le contraire. Durant les vacances, ce monde est censé être moins pressé.
Hey, c'est fou dans la tête. T'sais, moi, je le dis, je mets mon cruise à 117-118. Ben, même moi, je chauffe pas de cruise. J'aime pas ça. On dirait que ça m'endort. Mais t'sais, je me garde toujours vers cette vitesse-là, là, mettons, entre 110 et 118. J'avais 100 chars qui me dépassaient aux tranches de 20 minutes. Ça roule à 130-135 à côté. La pédale dans le prolor, let's go.
Hey, moi, je le dis, on réalise-tu, Jeff, qu'ici au Québec, on a l'hiver, qui est, ma foi, une saison rock'n'roll.
Ben oui.
Là, sur les routes, c'est pas beau, des tempêtes de neige, des conditions routières merdiques, là, on peut le dire. Puis malgré ça, on trouve le moyen que nos périodes où il y a le plus de morts sur les routes, ce soit en plein milieu
ouais,
de l'été.
En été. Quand il fait beau.
C'est ridicule.
T'sais, moi, j'ai fait aller-retour Québec-Toronto, gros soleil les deux jours. Là. Ça
hein?
roule en débile. Il faut vraiment là, lever la pédale de sur l'accélérateur. C'est la cause première de la mortalité, la vitesse. Ça l'est pendant les vacances de la construction. Ça l'est dans le bilan sécurité routière en 2027 en Capitale-Nationale. Puis malheureusement, ce mauvais comportement-là qu'on a sur les autoroutes se répercute dans les rues résidentielles. Tu sais, je vais juste prendre là, la rue Saint-Georges là, à Lévis. Zone, tout près d'une zone scolaire. Le monde roule en cabochon, 70 et 80. Voyons, il y a des enfants.
C'est dangereux.
Oui, voyons donc.
Puis,
tu sais, tu fais là.
La vitesse puis l'inattention aussi, on en parlait.
Vraiment.
La semaine dernière, dans le retour, on a reçu une porte-parole de la SAAQ pour justement faire un bilan avant la fin. Puis ce qu'elle disait, c'est que la majorité des accidents graves, des collisions graves, arrivaient en dedans de 25 km de la résidence. Ou 15 km de la résidence. Donc, quand quelqu'un
ouais.
partait en vacances, c'était durant le début du trajet, soit en partant en vacances, soit en revenant de vacances que la collision arrivait. Parce qu'au début, les enfants sont excités, tout bouge. T'as pas d'attention sur la route.
Puis à la fin, t'es fatigué.
T'es fatigué.
Puis là, t'en reviens, puis t'es comme... T'es
tu
dans
relâches,
ton pattern.
C'est ça.
Tu relâches. Puis c'est drôle, parce que vois-tu, c'est quand? Ben oui, c'est ça. Quand j'ai tourné le coin pour rentrer chez nous samedi, j'ai passé proche de rentrer dans un char. J'ai dit, voyons, maudit cabochon, tu viens de faire Toronto-Québec.
T'arrivais, ton
Québec-Toronto, aller-retour. Mon esprit, c'était complètement
hein?
relâché.
Il se pense déjà à la maison.
Ah oui, c'est exactement ça. Je tournais le coin, puis là, j'ai arrêté à mon arrêt obligatoire, mais j'ai juste regardé d'un bord. Puis là, je suis reparti, puis je dis, hey, un char. Ah oui, il faut te regarder deux bords, le gars.
Donald Trump qui a annoncé la reprise des négociations aujourd'hui avec l'Iran. Il y avait des frappes américaines qui étaient censées avoir lieu cette nuit. Finalement, on ne les a pas faites parce qu'on voulait justement recommencer les négociations. Pendant ce temps-là, du côté de l'Iran, on continue de dire qu'on ne négocie pas. Là. Vous me direz qu'on a déjà vu ce scénario-là, puis je vous dirais oui.
Est-ce que j'ai pris mes vacances?
on n'a pas bien avancé.
On est dans le même place!
Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Durant ce temps-là, l'Iran qui négocie présentement avec l'Oman, qui est comme l'autre pays qui a une emprise sur le détroit d'Ormuz, puis on serait tout proche d'une entente. Et si jamais on parvient à une entente entre l'Oman et l'Iran, qui sont les deux pôles qui bloquent le détroit d'Ormuz, ben on faciliterait beaucoup le système de péage que l'Iran veut mettre en place dans le secteur. Donc ça, ça va être à suivre de près. Mais le cours du pétrole qui a baissé là, de 5 % environ en matinée en raison de Donald Trump, entre autres, qui a annoncé les négociations. Et je termine avec un séisme qui a eu lieu hier vers 20h33, un séisme de magnitude 2.8. Vous l'avez peut-être senti dans Val-Bélair, Charlebourg, Beauport, Limoilou, peut-être même un peu à Lévis, là, je sais pas. Toi, t'es
moi,
dans
j'ai
le secteur
senti
de Beauport.
À Beauport.
Hein?
Oh, oui, vraiment. Je pensais que c'était le tonnerre, moi, parce que je sortais de la douche, mais quand je suis arrivé dans la cuisine, Val me dit « Hey, d'après moi, on a eu un tremblement de terre. » Ça a vraiment shaké, puis t'es même à entendre les verres claquer un peu ensemble dans, okay. Dans l'armoire. Puis comme défaite, à peu près une demi-heure après, là, sur les différents médias, là, on
tu
mentionnait qu'il y
sortir.
Avait un tremblement de terre. Donc, en effet. Et je me permets une petite parenthèse. Sport, mais surtout sport-spectacle. WWE. C'était SummerSlam cette fin de semaine. Vraiment deux soirées vraiment réussies par la WWE. Avec mes amis qu'on suit ça, on disait que c'était le meilleur show de la WWE depuis WrestleMania 39, qui était il y a de cela 4 ans. J'y étais en plus à Los Angeles, c'était le fun. Et hier, il y a un de nos Québécois qui est revenu en action après 17 mois d'absence. C'est Kevin Owens! Écoutez la foule au Minnesota! Kevin Owens a eu une opération au cou. On lui a... puis désolé là, pour le son qui est parti beaucoup trop fort. On lui a fusionné deux vertèbres au cou. Puis il s'était fait dire, écoute, les chances qu'il te relutte un jour sont très, très, très mitigées. Voilà à peu près un mois, on disait on pense pas que tu vas pouvoir remonter dans un ring. Puis finalement, la fusion s'est bien faite et il aura commencé à s'entraîner il y a une couple de semaines. Et hier, il a fait un retour surprise à SummerSlam au Minnesota. La deuxième soirée a commencé avec ceci. La foule était en délire. Kevin Owens, c'est un gars de Montréal, mais c'est un gars qui a lutté ici à la NSPW à Québec. D'ailleurs, lorsque la WWE est venue au centre Vidéotron, c'était vraiment un beau moment. Il a tenu à saluer Steve Boutet, le propriétaire de la NSPW, parce qu'il a dit « Sans toi, je ne serais pas sur le ring aujourd'hui. »
Ah, ça, c'est
pas sur le ring, la WWE. Il se rappelle de ses racines, il se rappelle d'où il vient. Et hier, il a gagné un match pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre de SmackDown, donc à la WWE Undisputed Champion. Sais-tu quoi? D'après moi, ils vont y donner.
Ah ouais, tu penses que ben, avec son histoire...
Avec son histoire.
Qui aurait peut-être jamais pu remonter dans un ring, réussir à sortir de ça. Je veux dire, c'est le type d'histoire parfait là, pour comme par exemple la WWE qui veut mettre beaucoup l'histoire de l'avant. Puis c'est normal, là, c'est tout arrangé, ça.
Ouais. Fait que ben oui.
D'avoir une belle histoire comme ça qui arrive sur un plateau d'argent, eux autres, c'est sûr, ils vont vouloir faire de l'argent avec ça.
Oui, et là, surtout que CM Punk, qui est le champion, a battu Sami Zayn, l'ami de Kevin Owens, après seulement 9 jours de règne de Sami Zayn. Donc là, tout est écrit, là. Il va venir défendre son ami, va battre CM Punk, la foule va être en délire. T'sais, le scénario est là. Le scénario est parfait. Alors, chapeau à Kevin Owens. Ça prend énormément de détermination pour faire ce qu'il a fait. Alors, je voulais le saluer. C'est dans les médias, là, un peu partout, là, justement. Très gros article dans le journal de Québec. Ça a été salué juste en masse sur les médias sociaux. On fait une courte pause, puis après, Mathias, je veux que tu nous parles de pistes cyclables à Québec. C'était à la une du soleil. Puis je vais en profiter pour vous parler aussi de conversations que j'ai eues avec mes adolescents, mes jeunes adultes, sur la façon qu'ils veulent vivre. Ça m'a fait réfléchir sur la façon que moi je vis, sur la façon que je commente la politique. Fait qu'on va partir de vélo, on va s'en aller jusque-là. Et là, tu dis, ça va être quoi le lien?
J'ai hâte de voir.
Après la pause. Hey, on en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte pour cette semaine. Denis Gravel, votre animateur du retour. L'émission numéro 2 à Québec, derrière notre station sœur Weekend, sera de retour à 14h avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Vous pouvez l'écouter sur les ondes RCN, mais vous pouvez aussi l'écouter via l'application Boulevard 101 qui est toujours disponible gratuitement. Vous pouvez aussi l'écouter sur la web radio et si vous avez un haut-parleur intelligent, dire écoutez BLVD 102. Notre ami Denis, là, je suis convaincu. Je le connais assez, c'est sa 5e année à Boulevard. Je l'écoutais à l'époque pour l'autre station également pour laquelle il travaillait. Il aime ça quand il revient de vacances, jaser de ses histoires. Et là, je suis convaincu qu'il va nous jaser de son post sur les médias sociaux.
Hey, ça a dégénéré pas à peu près. Hey, hein?
Question fort simple. Il a posé la question qui suit. Question sans parti pris. Si votre premier geste quand vous voulez vous lancer en politique, c'est d'effacer des milliers de tweets où vous parlez de politique, y a-t-il juste moi qui se demande pourquoi je vous ferais confiance? Ben, Denis, je lève la main, je suis dans la même équipe que toi. Il parlait évidemment de Dominique Dumas, ancien animateur à Radio X, qui se présente dans Chute de la Chaudière pour le Parti conservateur du Québec. Puis savez-vous quoi? C'est rien comme Dominique Dumas. C'est juste que moi, n'importe quel politicien qui ferait ça, j'y ferais pas confiance.
Et dans tous les cas, là, que le politicien soit de droite, de gauche, de centre, de n'importe quoi, c'est une question. Que tu sois d'accord ou pas avec la question, c'est pas ça le point. Ça reste une question légitime. C'est légitime de poser ça comme question. C'est pas controversé de dire « Hey, on me cache ce que cette personne-là a publié par le passé. Comment je peux lui faire confiance? » Il n'y a rien de controversé là-dedans. Là.
Exactement. Donc, c'est rien. Et là, il a reçu une tonne d'insultes comme « Ah, de toute façon, il n'y a plus personne qui t'écoute. » Ben, c'est pas vrai. Il y a l'émission numéro 2. Après ça, il s'est fait traiter de pro-marchand. Ça avait vraiment...
Bon, ça a beaucoup de liens, ça.
Ça avait vraiment beaucoup de liens. Puis bref, plein d'autres insultes. Mais savez-vous quoi? Moi, j'ai répondu à sa publication, puis j'ai dit, « Sais-tu quoi, Denis? Moi, si je me présente un jour en politique, j'ai à effacer aucun de mes tweets de mes posts parce que je suis la personne que je suis. Et je suis une personne qui vibre selon des valeurs qui, je crois, sont partagées par la très grande majorité de la société. Donc, puis dans des... Tu sais, dans des tweets que Dom Dumas effaçait, là, il y en a un que j'ai entendu souvent, que je peux pas croire que les complotistes ont utilisé. En pandémie, je me sentais comme une femme battue. Ils savent-tu c'est quoi une femme battue?
Ben, visiblement, pour faire cette comparaison-là, non.
Sont-tu déjà allés dans un centre qui héberge des femmes qui sont battues? Moi, j'en ai côtoyé des femmes qui ont été violentées parce que avec le patron Charlebourg, je m'occupais de la banque alimentaire. Puis souvent, ben, les femmes qui ont passé par les centres, justement, de femmes qui ont été violentées, et là, qui se retrouvent en appartement avec le kid, les deux kids, les trois kids, puis qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, parce que souvent, c'est des femmes qui ont tellement été restreintes par leur conjoint qu'ils n'avaient pas d'emploi non plus. Bien, ils se retrouvaient devant moi, puis il y en a plusieurs qui m'ont témoigné la souffrance qu'ils ont vécue. Hey, de la souffrance physique, de la souffrance psychologique. T'es battu physiquement par quelqu'un. T'es enfermé dans un carcan. T'as plus de liberté. Tu parles plus à tes amis. À la COVID, là, on pouvait prendre notre petite bière tranquille dans le salon. On pouvait jaser avec nos chums via Zoom. On pouvait leur jaser au téléphone. On pouvait même en croiser à l'extérieur. Hey, t'étais pas une femme battue là, par la COVID. Ben là,
hey, Jeff, attends un peu. Là. T'allais au dépanneur, fallait mettre un masque.
Hey!
Moi, pour moi, c'est quand même un équivalent.
Mais
non?
C'est ça. Tu sais, 418-971-1021, y a-tu juste moi, Mathias, qui trouve ça exagéré, la comparaison avec une femme battue?
Je pense que, en fait, la majorité du monde vont trouver ça exagéré. La défense qui va dire, c'est « Ah, c'est sorti de son contexte. Vous comprenez que c'est une exagération. »
Moi, non, c'est pas sorti de son contexte. C'est que tu as dit que tu te sentais comme une femme battue. Sais-tu c'est quoi une femme battue? C'est ça qui a pas de sens. Fait que là, tu te présentes en politique, toi, là, puis là, t'essayes de cacher ça, que t'as déjà fait ça. T'essayes de cacher que t'as fait des tweets anti-avortement. C'est drôle, moi, je veux le savoir, si mon député est anti-avortement ou non. Moi, l'avortement, pour moi, c'est un gros oui, en majuscule. Je voterai pas pour toi si c'est anti-avortement.
Ah, puis il a fait des posts aussi en lien avec la gestion de l'offre où il disait que les agriculteurs qui soutenaient la gestion de l'offre, c'était tout, puis pour reprendre ses mots dans son tweet, là, des hosties de voleurs.
C'est ça.
Fait que, tu sais, ben oui. Je veux dire, pour quelqu'un qui est en politique, ça, c'est des tweets déplacés. Ouais. C'est pas pour rien qu'ils aient effacés.
Ah, attends une minute. Les agriculteurs, c'est des hosties de voleurs.
Ouais.
Ah, on va parler à Mylène Bégin tout à l'heure, justement. Éleveuse laitière, copropriétaire de la ferme Princy. Elle est très présente sur les médias sociaux. Alors, soit des commentaires haineux, parce que les médias sociaux, de toute façon, c'est rendu une gang de pas de cervelle qui commentent tout ce qu'ils veulent commenter. Puis en passant, il y en a plusieurs politiciens qui se présentent qui font partie de cette gang-là. Donc, soyez très, très, très attentifs. Ah, c'est drôle, je suis certain quand je vais parler avec Mylène Bégin, quand on va parler avec Mylène Bégin tantôt, Mathias, moi, je suis certain qu'on va lui demander combien d'heures tu travailles par semaine, puis qu'elle va me répondre 100 heures par semaine. Mais comment Dominique Dumas l'a qualifié?
Ben, ceux qui soutiennent la gestion d'offres, là, ouais. je tiens à le préciser. C'est juste eux, là.
OK.
Ben, eux autres, c'est des hosties de voleurs.
OK, parfait. Fait que Mylène Bégin, éleveuse laitière, copropriétaire d'une ferme qui travaille 100 heures par semaine pour Dominique Dumas, c'est une hostie de voleuse.
Ben, si elle soutient la gestion d'offres, oui. Voyons, Jeff, on sait que ça n'a pas d'allure soutenir ça. Là.
OK, OK. Ah, ça doit être pour ça que c'est effacé. Hein?
Probablement, oui.
Ça doit être pour ça que c'est effacé. Puis à tous ceux qui ont craché leur venin là, à Denis Gravel, là, ben, dites-vous une chose. Si ça avait été quelqu'un de QS qui avait fait ça, là, vous auriez été premier
Ah, ça, c'est sûr.
Vous auriez été premier à être les démagogues en chef de QS en disant « Ça n'a pas d'allure, il il efface son CB.
C'est un menteur, c'est un crosseur.
C'est ça. C'est un communiste. Fait que quand c'est dans votre gang, vous dites oui, c'est correct. Quand c'est pas dans votre gang, c'est pas correct. Ben moi, c'est pas correct que ce soit dans n'importe quelle gang. Que ce soit quelqu'un qui se présente pour la CAQ, le PLQ, le PQQS ou PCQ, si t'effaces ton historique de médias sociaux, tu ne mérites pas de te présenter en politique. C'est parce que t'as des squelettes dans ton placard. C'est aussi simple que ça. T'auras jamais mon vote. Puis là, qu'on arrête de me jouer là. Ouais, mais là, il y a quelque chose qui va être pris hors contexte. Non, non, c'est pas pris hors contexte quand t'écris que, rappelle-moi, là, pour les agriculteurs.
Ah oui, que tous les agriculteurs qui soutiennent le système de gestion de l'offre, c'est des hosties de voleurs.
Ah, et voilà. Puis quand t'écris que tu t'es senti comme une femme battue parce que on avait décidé de te mettre un couvre-feu. Hey, Dominique Dumas, c'était une femme battue, mais il était à sa station de radio chaque matin à faire son émission. Les femmes battues, là, sont restreintes à leur domicile par leur homme violent, puis ils mangent des claques à la gueule à longueur
c'est
de
pas
semaine.
C'est pas la même chose. C'est pas comparable de pantoute.
C'est ça.
Bon, mettons, moi, si j'avais écrit ça par le passé, puis ça va jamais arriver que j'écrive des niaiseries de même, rassurez-vous, je pense que je l'aurais effacé aussi avant de me lancer en politique, mais c'est parce que les propos sont inacceptables. C'est pour
exactement
ça qu'ils sont effacés maintenant.
Exactement. Christian qui nous écrit, ce qui me déprime, c'est qu'il risque de gagner. Ben, honnêtement, je souhaite que non. Il y a d'autres bons candidats dans la chute de la Chaudière. Puis, je l'ai souvent dit, moi, je vote pour des députés. Je vote pas nécessairement pour le parti. Vous allez être beaucoup mieux représenté si vous êtes représenté par Serge Bonin ou Martine Biron. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Donc, faites bien ce que vous voulez, gens de chute de la Chaudière, mais sachez que votre député, que sa gang de haineux sur les médias sociaux qui, dès qu'on écrit quelque chose contre lui, ce candidat-là au PCQ, comme les gens qu'on voyait avec Respect Citoyen, ils ont leur groupe d'haineux qui vont tout de suite sauter sur un post et écrire énormément de haine et de violence à n'importe qui ose critiquer. Bien, si vous votez pour cet individu-là, vous votez pour la haine, la violence.
Puis maudit qu'on n'est plus capable de discuter. Hein? Juste le fait d'emmener un questionnement sans nécessairement... Tu sais, il n'y a pas dit dans ce post-là, votez pas pour lui, votez pour lui. Lui, c'est un ci, mm-hmm. Lui, c'est un ça. Il a posé une question.
Exactement.
C'est tout. Là.
Oui, puis une question très légitime, puis une question à laquelle je réponds non, je voterai jamais pour quelqu'un comme ça. Hey, texto très touchant qui vient d'entrer. Je pense qu'il ne sait pas c'est quoi une femme battue, justement, quand on l'a vécu. Je peux vous le dire. Bien, chère auditrice, on est avec toi. On est de tout cœur avec toi. On t'accompagne là-dedans. J'espère que tu t'en es sorti, parce que de la façon que tu nous l'écris, oui, tu t'en es sorti. Bravo pour ton courage de t'en être sorti. C'est vraiment pas facile. Puis merci pour ton témoignage. Honnêtement, c'est vraiment très, très, très apprécié. Bon, évidemment, on a quelques personnes également qui nous écrivent « Ah, ça n'a pas de bon sens, ce que vous dites. » Mais savez-vous quoi? Continuez dans votre conspiration. Continuez dans votre conspiration de COVID puis de Parti conservateur du Québec qui va tout changer. Puis ça me fait bien plaisir de que vous soyez à l'écoute quand même. Mathias Piste Cyclable.
Oui.
On investit beaucoup à Québec.
Énormément.
Il y a un article présentement dans Le Soleil qui mentionne que il y a des endroits qui sont très dangereux pour les cyclistes. Le boulevard Louis XIV est nommé là-dedans. Je suis tellement d'accord. J'habite à proximité du boulevard Louis XIV. Écoute, je veux dire, il n'y a pas de place pour un cycliste, une trottinette, n'importe quoi. C'est un boulevard à 50. Les feux de circulation sont très éloignés, donc ça roule beaucoup à 70-80 à cet endroit-là. Mais là, toi, quand tu vois ça, investissement dans les pistes cyclables, les cyclistes qui se plaignent qu'il n'y a pas de place là-dessus, ça te fâche-tu?
Ça me fâche pas, mais en même temps, j'apporte un certain questionnement à savoir, là, on se plaint que certaines routes sont difficilement cyclables, vu qu'il n'y a pas de place, ben, allez sur des corridors qui sont aménagés pour, là, t'sais, dans le sens, faites le choix de prendre une autre avenue, une autre route ou un autre endroit que cet endroit-là qui est, selon vous, pas circulable en vélo.
En effet,
Tu sais, il y a d'autres alternatives aussi à travers la ville. T'es pas obligé de passer par ce chemin-là.
En effet. Durant mes vacances, j'ai jasé beaucoup avec mes boys durant la dernière semaine. Peut-être tu te disais, hey, à quel point t'as pu plus te rapprocher de tes boys. Mais c'est, tu sais, mes gars, je suis très rapproché d'eux, mais c'est souvent par le sport. Je les coach au hockey, je les annonce au football. Mais là, on a eu le temps d'avoir des conversations d'adulte à adulte, parce qu'à 18 et 16 ans, ils forment leur identité. Puis j'ai également jasé avec d'autres aussi jeunes adultes de leur entourage. Puis Caroline, Mathias, je me suis rendu compte qu'ils veulent vivre comme le maire Marchand est en train de transformer la ville.
En vélo?
Ils veulent vivre juste avec un char.
Attends, je suis pas sûr de te suivre. Ils veulent vivre avec un char dans leur couple, c'est ça que je comprends.
Exactement. Okay. Ils veulent vivre juste avec un char. Ils veulent du transport structurant à Toronto. Là, on avait le métro direct dans le sous-sol de notre complexe d'appartements. Puis ils m'ont dit, hey, moi, là, c'est ça, c'est comme ça que je voudrais vivre. C'est ça que je voudrais. Je veux pas être pris dans le trafic. Je veux pas dépenser du temps pour rien. Ils m'ont parlé justement de vélo, de trottinette. Ils voulaient se déplacer de façon différente.
Ils veulent vivre en ville, là.
Ils veulent vivre en ville,
au centre-ville.
Ouais, ils veulent vivre en ville.
Ah ouais, OK.
La majorité à qui j'ai parlé veulent vivre en ville. Ils me disaient, hey, écoute, moi, là, maison, là, de toute façon, c'est hors prix complètement. Là. Fait que, regarde, j'aurai une maison quand j'aurai une maison.
Je vais vivre en appartement. J'aurai une voiture pour moi puis ma blonde. Puis le reste, ce sera en vélo. Ou en métro. Ben là, dans ce cas-ci, ça va être en autobus ou en tramway ici. Là.
Ouais, fait que là, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui est dans le champ? Quand le maire Marchand investit dans une piste cyclable, c'est moi qui est dans le champ d'être fâché de ça?
Ben non, je pense pas. Puis je vais mettre beaucoup de points sur ce que tu dis. Là. J'ai 22 ans, OK, on s'entend.
Ben, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi de ça.
On va s'entendre, j'ai pas 60 ans.
Hey, t'as juste 4 ans de non, plus vieux
ben,
que
ben,
mon
c'est
gars.
Ça, là, je suis quand même rapproché. Puis moi, je sais pas, mais moi puis ma blonde, on habite ensemble actuellement. Puis dans notre recherche d'appartement, le critère numéro un, c'était fallait qu'il y ait deux stationnements. Parce que j'ai ma voiture, ma blonde a sa voiture. On voulait nos stationnements. On se déplace avec nos voitures pour aller au travail. Moi, j'aspire à avoir un jour ma maison avec mon terrain. Avoir ma voiture, que ma blonde aille sa voiture. T'sais. Fait que, oui, certaines personnes, puis de plus, je pense qu'il y a plus de jeunes que, mettons, de personnes de ton âge qui souhaitent avoir une vie plus avec le transport en commun, le vélo en ville. Mais ça reste qu'on est encore beaucoup de jeunes qui aspirent à la vie de banlieue ou la vie de campagne avec notre terrain, nos choses, nos voitures.
Ben écoute, t'es-tu en train de me dire que c'est moi qui est en train de former des Québec solidaires de demain?
c'est toi qui les élèves comme ça, Jeff.
OK, où c'est que j'ai raté mon éducation?
Tu te remets en question. Hey! Non, mais puis je tiens à dire, pour moi, c'est important de développer... tout puis je suis en accord en partie avec la mère, là. Il y a une façon de le faire. Mais c'est important quand même de développer d'autres voies de circulation, de ne pas juste reposer sur la voiture, d'être capable d'avoir des espaces cyclables pour les vélos. Mais il y a une limite à tout aussi. Tu sais, dans le sens, il faut avoir un équilibre. Fait que oui, du transport en commun, oui, du vélo, mais je pense pas que c'est tous les jeunes qui aspirent à vivre une vie de Montréalais non plus.
T'as raison. T'as raison là-dessus. Mais je sens quand même. Puis qu'est-ce que vous en pensez? 418-971-1021. Puis là, il y a un autre soir qui nous a écrit « Jeff, t'es foutu. » Mais ils sont pas souverainistes, par exemple. Ça, on a parlé de souveraineté. Ils sont pas souverainistes.
Au moins.
Oui, c'est ça. Ils croient en leur Canada. Mais bref, ça m'a quand même remis en question. Parce que Bruno Marchand a quand même eu 49% des votes.
Oui.
Fait que ça m'a remis en question en me disant, coudonc, moi qui étais à la radio, puis quand il y a des investissements dans les pistes cyclables, je dis, oh non, nos routes, puis non ci, puis non ça. Mais je représente ça la majorité quand je dis ça.
Es-tu déconnecté du monde? Tu te poses cette question-là?
Ben, je me suis vraiment posé cette question-là. Là, vois-tu, tu me rassures. Toi, tu dis, ben non, gars, moi, Jeff, je rêve encore
ah, ben
à
oui,
cette
ben
vie-là.
Oui.
Bon. Mais je me suis quand même posé cette question-là. Je pense qu'elle est légitime de se le poser. Est-ce qu'on exagère un peu trop parce qu'on a un maire qui exagère trop ses pistes cyclables? Est-ce qu'on exagère trop dans notre contrepartie?
Je pense que oui aussi. Là. Comme je te dis, ça prend un équilibre. Quand cet équilibre-là il n'est pas répondu puis qu'on a l'impression que des instances politiques, puis là, ils vont dire « Ah non, on fait pas la guerre à l'auto » puis tout, mais pousse dans un seul sens. Fait que peu de développement de route, mais beaucoup de développement de piscicla, beaucoup de développement en transport en commun. On veut rendre le vieux Québec piéton seulement. Ben, quand on a l'impression qu'on fait juste pousser d'un bord, ben notre réflexe, ça va dire « Hey, wow, là, faut bloquer ça puis nous en redonner un peu aussi. » Puis je pense que c'est un peu ça la dynamique qui s'est créée au cours des dernières années à Québec aussi.
Non, t'as raison. Puis ça me fait penser justement à l'entretien qu'on a eu avec Luc Laliberté ce matin où présentement au Wisconsin, c'est une gouverneure, Mme Hong, qui domine au niveau des démocrates et les socialistes. Le programme social-démocrate, ça veut abolir la police, les prisons et les frontières. Puis là, je disais à Luc, hey, je peux bien croire que le mouvement MAGA en prend pour son rhume, mais là, tu sais, on sera pas mieux de ce côté-là. Puis Luc était d'accord avec moi. Fait que j'ai l'impression que parce qu'on a un maire, justement, trop pro-transport en commun, pro-mobilité active...
On réagit.
Ouais, on réagit plus fortement, on se braque.
Système de défense, on commence à avoir peur pour nos voitures, dire est-ce que je vais... Parce que c'est un confort qu'on a, puis moi, je le pense, là. Moi, prendre ma voiture, puis pouvoir aller n'importe où... J'habite Sainte-Foy. Fait que pouvoir aller n'importe où à Québec en dedans de 15 minutes de route, puis me parquer, puis débarquer, là... C'est un privilège que j'ai puis que je veux garder.
Ouais, je comprends très bien. T'sais, j'ai le même privilège. Quand ma transmission a sauté pour 6 000 $, on s'est posé la question, valait moins. Hey, on vit-tu un char? Puis là, finalement, ben, tout de suite, avec les horaires de travail, on a dit que ça marchait pas. Puis après ça, on a pensé aux 4 enfants, 2, on a dit ça marche pas non plus. Mais t'sais, on s'est posé la question. Puis moi aussi, t'sais, j'aime avoir ce privilège-là. Là. En passant, il commence à pleuvoir très fortement sur Québec, les amis. Donc, je vous le rappelle, on va avoir un météorologue de Météo Média, Nicolas Lessard, qui va venir nous parler en fin d'émission. Il annonce des orages violents aujourd'hui sur Québec.
Et ça, c'est un point intéressant qui t'emmène aussi le rythme de vie que t'as. Là, tes gars sont encore jeunes. Eux autres, ce qu'ils font dans la vie, c'est avoir leur job, voir leur chum,
en effet.
Boire un peu de bière, relax, pas nécessairement...
Moi, je te dirais qu'ils ont fait beaucoup de party durant leurs vacances.
Boire beaucoup de bière.
Ils ressemblent à leur père.
Boire beaucoup de bière, puis pas nécessairement avoir beaucoup d'obligations, pas d'avoir beaucoup d'obligations familiales non plus.
En effet.
Mais une fois qu'ils vont être là-dedans puis qu'ils vont s'approcher, peut-être qu'ils vont se rendre compte que hey, la vie qu'on voyait à l'époque avec nos besoins à ce moment-là, c'est peut-être plus tant réaliste à entretenir. Peut-être que finalement, ils vont développer plus une pensée, vouloir retourner à la maison, vouloir avoir chacun leur voiture. Une fois que tu as des enfants, c'est plus pareil, là.
Non, en effet, justement, on a un texto qui rentre là-dessus. Quand les jeunes auront vécu pour vrai, la vraie vie est payer des taxes, ils voudront probablement changer d'opinion. Ben, ça se peut. Puis, tu sais, moi, je pense que selon comment tu vis, tes opinions risquent de changer.
Ah, ça, c'est sûr.
Je pense pas pareil aujourd'hui comme je pensais à 25 ans. Là.
Ça sonne comme un stéréotype envers les jeunes, mais c'est statistique. Les jeunes votent de gauche, puis
c'est
après
clair.
Ça, quand ils vieillissent, ils se déplacent plus vers la droite.
Ben,
c'est
clair.
Un phénomène
c'est normal. Clair. T'es, moi, je le dis, je suis de droite économique. Mais en même temps, je le sais que je suis très à gauche au niveau social, puis moi, je souhaite qu'on développe nos ressources naturelles pour garder notre filet social. Là, justement, tantôt, on parlait des femmes battues, on pourrait parler d'itinérance. T'sais, ça nous prend ce tissu social-là. Il y a Fred aussi qui amène un bon point. Des jeunes qui vivent en ville versus qui vivent en campagne, leurs priorités sont complètement différentes. Mes gars vivent à Charlebourg et à Beauport, donc c'est pas nécessairement la grande campagne. C'est considéré comme la banlieue, mais c'est vrai qu'il y a tellement de services de proximité dans ces deux arrondissements-là que ça peut faire la job. Hey, merci d'interagir au 418-971-1021. Fait qu'en conclusion, Mathias, j'en conclue que je suis pas trop dans le champ quand je critique.
Ah, je pense pas, Jeff. Là, t'as vraiment eu une remise en question quand t'as entendu des petits jeunes dire « Ah non, nous autres, ça va être du vélo au centre-ville. »
Ouais, c'est mes gars, je les aime. Mais...
Moi, je pourrais pas, tu vois. Moi, je pourrais jamais. Mais... C'est pas un style de vie qui me conviendrait, mettons.
Mais peut-être que je vais devoir réviser la façon que j'éduque mes enfants. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je termine avec un texto qui est rentré. Attends après le cégep, ils vont virer PQ. Ouais, j'en ai un qui s'en va à Chicoutimi. Et on fait une courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on va parler avec François Larochelle, ancien diplomate au Moyen-Orient et fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM. Je pense, Mathias, que c'est la meilleure personne pour nous parler de ce qui se passe et ce qui se brasse entre les pays au Moyen-Orient à l'heure actuelle. L'Iran qui négocie avec le sultanat d'Oman pour le détroit d'Ormuz. L'Arabie saoudite qui là lève la main et dit aux Américains « Hey, c'est assez, on est en train de se faire menacer. » L'Iran qui, s'il va chercher de l'argent avec le détroit d'Ormuz, peut financer davantage des groupes comme le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen. Donc, je pense que lui...
Il va falloir quelqu'un pour nous démêler ça.
Ben, c'est ça. Monsieur La Rochelle, il est deux pieds au Moyen-Orient pendant une vingtaine d'années. D'après moi, c'est la meilleure personne pour nous parler de ceci. Parce qu'évidemment, vous l'aurez compris, il n'y a rien qui a changé malgré mon 3 semaines de vacances avec Donald Trump. Et rien en majuscule.
Fortin et Max Larouche.
On en jase, les amis, avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte pour les 3 prochaines semaines. Denis Gravel qui fait son retour du côté de Boulevard pour une 5e année avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Ça sera dès 14h. Hey, merci, hein? Je le disais ce matin, je leur dis ce midi, 418-971-1021, là, c'est ouvert à toutes les opinions. Ce matin, on m'a convaincu que le gouvernement avait mal fait d'annuler le rassemblement anti-avortement au centre des congrès. Les auditeurs, Pascal CV, Alex Laramé et Christine Saint-Pierre m'ont convaincu de ça.
Il y avait beaucoup de personnes contre toi, de ce que je comprends.
Et je suis très ouvert d'esprit, donc j'ai fait « ben oui, qu'il y a donc ça ». Pourquoi pas, c'est vrai, c'était une bonne idée finalement. J'en ai conclu que le gouvernement peut dire « ça n'a pas d'allure ce rassemblement-là, mais il ne peut pas l'annuler, parce que c'est de la liberté d'expression ». Bon. J'étais très d'accord. Donc, j'étais d'accord avec le jugement. Alors, tu vois, je suis ouvert d'esprit. Et ici, excellent texto qui est rentré d'une personne qui dit « Hey, t'exagères, voter pour de la violence et des propos haineux si je vote PCQ. » Parce que cette personne dit « Moi, je suis de droite économique et je vote PCQ pour ça. » Ça veut pas dire que je complotisse mon ami, bien au contraire. « Hey, merci. » Merci infiniment. Je comprends pourquoi tu vas voter pour le PCQ. Donc, je suis vraiment content. Je suis très, très, très content quand vous nous écrivez. Puis, je fais preuve d'une belle ouverture d'esprit. J'aime beaucoup être challengé dans mes idées et mes opinions. Il y a Mathias, tu viens de me faire changer d'idée. Moi, j'étais pour un Québec en piste cyclable.
Tu pars en vacances pendant 3 semaines, tu reviens, t'es rendu green, piste cyclable partout, fini la voiture. Hey, le projet d'enlever les voitures dans le Vieux-Québec, moi j'étends ça, plus de voitures dans Saint-Roch, plus dans Saint-Sauveur.
Je suis revenu à gauche de l'échiquier politique, toi, ça a pas d'allure. OK, je vais m'en remettre au centre comme j'ai toujours été. Bon, avant qu'on parle avec François La Rochelle, ex-diplomate au Moyen-Orient, et fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM. Mathias, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Oui, on y va rapidement. Les agents de bord et WestJet qui ont conclu une entente de principe ce matin, ce qui met donc fin à la grève qui avait commencé hier à peine. Là, plusieurs centaines de vols qui ont été annulés. Va rester à ce que les agents de bord acceptent ou refusent cette entente de principe-là. Je tiens à préciser, si jamais ils la refusent, ça ne veut pas dire qu'on repart en grève pour autant. Là, ce qu'on nous dit, en gros, c'est que les agents de bord, dans cette entente-là, recevraient un crédit de vol supplémentaire justement pour pallier contre certaines heures au sol qui ne seraient pas payées. Un homme âgé dans la quarantaine qui s'est noyé du côté du lac Saint-Jean vendredi dernier. C'est vers 16h30 que les autorités se sont rendues sur place en raison d'une personne en détresse. Il a été retrouvé mort. Pour l'instant, l'enquête n'a pas nécessairement révélé les circonstances exactes du drame. On ne sait toujours pas, on hésite entre deux hypothèses, s'il s'agit d'un malaise ou encore d'un homme qui a surestimé ses capacités de nageur. Ça se rajoute donc aux 9 morts qui ont eu lieu pendant les vacances de la construction. Et je termine avec Donald Trump qui aurait repris les négociations aujourd'hui avec l'Iran. On a suspendu les bombardements américains du côté de l'Iran, justement. Du côté de l'Iran, on dit non, on n'est pas en discussion avec les États-Unis. C'est un scénario qu'on a déjà vu de multiples fois qui se répète.
Exactement, un scénario qu'on a depuis le 28 février. Et pour parler avec nous de cette situation très explosive au Moyen-Orient, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, nous avons avec nous François La Rochelle, ancien diplomate au Moyen-Orient et fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM. Monsieur La Rochelle, merci beaucoup pour votre présence avec nous.
Bien, c'est moi qui vous remercie.
Monsieur La Rochelle, je lisais ce matin que l'Iran négocie avec le sultanat d'Oman pour le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ceci?
Bien, en fait, si effectivement les négociations débloquaient, ou amener une solution, ce serait un scénario qui probablement pourrait même sortir, pourrait aider Trump. Parce qu'apparemment, ce sur quoi les Iraniens et les Omanais travaillent, ce serait de trouver un compromis pour que les bateaux puissent passer. En fait, c'est pas très imaginatif, mais que les bateaux pourraient passer à mi-chemin entre les côtes de l'Iran et les côtes d'Oman. Et à ce moment-là, le blocus iranien cesserait. Ainsi, j'imagine, le blocus des Américains et le détroit d'Ormuz serait réouvert, ce qui permettrait une baisse des prix du pétrole et aussi permettrait aux pays de la région d'exporter leur pétrole, là, ce qu'ils ne peuvent pas faire actuellement, ou du moins le font de façon beaucoup plus limitée.
Si jamais on parvient à une entente et que le détroit d'Ormuz réouvre grâce à cette entente-là, on s'entend qu'il y a de fortes chances que ça vienne avec un paiement, par contre?
Ces négociations-là, évidemment, d'abord, c'est pas fini, puis il n'y a pas eu non plus, là, ça n'a pas été rendu public. Alors, qu'est-ce qui se passera en termes de tarifs ou de droits? C'est un des objectifs, semble-t-il, que les Iraniens ont, de pouvoir faire de l'argent avec le passage des bateaux. Est-ce que ça serait un des éléments de l'accord? Est-ce que les Omanais pourraient faire la même chose? Ça reste à voir, mais il y a déjà d'autres endroits, d'autres détroits comme ça, où les bateaux, les propriétaires des bateaux doivent payer des frais, mais c'est sur une base volontaire, soi-disant parce qu'ils obtiennent des services. Alors, ça pourrait peut-être être la solution ou une des choses qui pourrait satisfaire à la fois les Omanais et les Iraniens, mais ça reste à voir, là, il est trop tôt, parce qu'il n'y aura peut-être pas d'accord non plus. Là, donc, attendons de voir si effectivement ça débouche sur quelque chose.
Si jamais l'Iran venait justement percevoir de l'argent, que ce soit de façon volontaire ou non avec le détroit d'Ormuz, est-ce que ça peut être dangereux pour les autres pays au Moyen-Orient? Parce qu'on le sait, l'Iran finance des groupes terroristes comme le Hezbollah, le Hamas, ou voire même les Houthis au Yémen.
Écoutez, c'est sûr qu'il n'y a personne, il y a peu de pays qui veulent que le détroit d'Ormuz devienne propriété privée, si on peut dire, des Iraniens, parce que personne ne veut se retrouver entre les mains là, du régime de Téhéran là, qui ferme et ouvre le détroit d'Ormuz à sa guise. Mais il semble que les négociations actuellement se font aussi, consultent les Omanais, consultent aussi les autres pays de la région. Alors, si ces pays-là sont prêts pour que le détroit d'Ormuz réouvre à payer sur une base volontaire des frais, que ce soit à l'Iran ou à Oman, je vous dirais que probablement, pour l'instant, c'est probablement une solution qui pourrait être permanente ou même intérimaire, qui pourrait satisfaire beaucoup de gens dans la région. Mais évidemment, ça serait nouveau parce qu'avant, le détroit d'Ormuz était ouvert à tout le monde. Mais à cause de l'attaque israélo-américaine, les Iraniens ont compris qu'il y avait un atout majeur qui était le contrôle du détroit d'Ormuz et là, ils veulent pousser ça au maximum.
Mm-hmm. Pas le choix de constater qu'avec cette situation-là, justement, où l'Iran pousse au maximum le contrôle du détroit d'Ormuz, c'est une défaite américaine.
Écoutez, encore, comme je vous dis, c'est peut-être vite en affaire, mais disons que ça n'a jamais été très clair de toute façon quels étaient les objectifs au départ de la guerre. Mais c'est clair que c'est effectivement, si le détroit d'Ormuz n'est plus ouvert là, à tout le monde comme c'était le cas auparavant, c'est clair que c'est un recul pour les Américains qui, franchement, jusqu'à maintenant, c'est difficile de voir qu'est-ce qu'ils ont obtenu de cette guerre, parce que bon, le régime précédent a été décapité, mais il a été remplacé rapidement. Il y a absolument aucun développement du côté du nucléaire. Les Iraniens semblent encore dotés de missiles et de drones. À ce stade-ci, c'est effectivement difficile de voir qu'est-ce que les Américains ont gagné dans tout ça. Et en plus, c'est une guerre qui leur a coûté extrêmement cher et qui continue d'ailleurs de leur coûter très cher.
Je continue avec le Moyen-Orient. Au début du week-end, Donald Trump annonçait qu'avec son conseil de paix, ils ont conclu une entente pour le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza. Mais Israël ne semble pas y croire. Qui on doit croire, Donald Trump ou Benjamin Netanyahu?
Écoutez, le Hamas a indiqué qu'ils étaient prêts à se désarmer. Le problème, évidemment, c'est de mettre ça en œuvre. Pour Netanyahou, c'est pas bon du tout parce que là, il est en campagne électorale. Alors, lui, il veut pousser le bouchon le plus loin possible, alors d'accepter qu'il y ait un échange entre... Parce que le deal, d'après Trump, ce serait que le Hamas, en retour du désarmement, obtienne de façon graduelle un retrait des troupes israéliennes de Gaza. Et les Israéliens disent non, nous, on n'accepte pas ça, on va quitter simplement quand tout le désarmement sera complété. Alors, ils peuvent jouer sur les mots comme ça très longtemps, et Netanyahou n'a pas du tout intérêt à ce que ce projet-là d'entente, là, c'est effectivement, bon, il semblerait, du moins, qu'Hamas soit d'accord. En tout cas, cette annonce de Trump, les chances que ça soit mis en place avant les élections en Israël, là, qui ont lieu à la fin octobre, les chances que ça soit mis en place sont plutôt rares, sont plutôt basses. Ceci dit, peut-être que Trump va continuer de faire pression sur Netanyahou pour que ça bouge. Mais ça encore là, ça reste à voir jusqu'où Trump est prêt à aller avec Netanyahou.
Et en terminant, M. Larochelle, vous êtes ancien diplomate au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal pour les prochaines semaines? Est-ce qu'on va se réveiller au mois de septembre? On va encore entendre Donald Trump menacer l'Iran puis dire qu'on est près d'un accord?
Je vous dirais que je suis pas mal d'accord avec vous.
Vous nous rassurez pas, là, M. Larochelle!
Mais le problème, d'abord, c'est très difficile de prédire au Moyen-Orient. Mais
en effet.
Ce qui n'aide pas, c'est Trump. C'est-à-dire que les Israéliens ne se fient pas à lui. Et négocier avec quelqu'un qui dit une chose une journée, qui dit le contraire le lendemain, c'est extrêmement difficile. Alors, j'ai l'impression que les Iraniens sont très méfiants avec raison. Ils se disent, nous, on va jouer le temps, on va jouer l'horloge. Et plus on approche des élections de mi-mandat au Congrès américain, plus on a des chances que Trump fasse des concessions. Mais encore là, ça reste à voir. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que le scénario qu'on voit là, des attaques, une accalmie, je vous dirais qu'à ce stade-ci, dans ma boule de cristal, si on peut dire,
c'est ce que vous voyez.
C'est malheureusement ça que je vois, à moins qu'il y ait vraiment un accord de dernière minute qui satisfasse Trump. Mais encore là, deux jours après, il peut décider que l'accord ne tient plus. Alors, il n'y a aucune confiance entre les parties et c'est très difficile de négocier un accord quand les deux parties ne se font pas confiance.
Ah, c'est clair, je suis tellement d'accord avec vous. Donc, dans votre boule de cristal, jusqu'aux élections de mi-mandat, on va vivre ça. Puis après ça, pardonnez-moi mon expression, mais si jamais Donald Trump et les Républicains mangent une varlope aux élections de mi-mandat, bien là, peut-être ça va changer.
Possiblement. Mais encore là, comme je vous dis, il est toujours possible aussi que Trump se réveille un matin et décide là, de bombarder.
En effet.
Alors, c'est pour ça que je vous dis, là, faire des prédictions dans le contexte actuel, c'est extrêmement difficile. Mm-hmm. Mais comme je vous dis, oui, effectivement, je pense qu'on va encore avoir une période d'incertitude là, encore pendant un bon bout de temps.
Monsieur Larochelle, François Larochelle, ancien diplomate au Moyen-Orient et fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM, merci infiniment pour le temps que vous avez passé avec nous ce midi. Et on va sûrement se reparler en cours de saison parce qu'il va encore avoir des choses à jaser sur le Moyen-Orient.
Parfait. Ben à la prochaine.
À la prochaine. Merci beaucoup, François Larochelle, un spécialiste des conflits au Moyen-Orient. Il a été diplomate là-bas, là, une vingtaine d'années, donc s'y connaît très bien. Fait que Mathias, c'était pas juste mon 3 semaines de vacances.
T'étais pas trop dépaysé, là?
Ben, je remercie vraiment Donald Trump, parce que dans le fond, je suis revenu en onde aujourd'hui après 3 semaines, puis j'ai pu parler de la même chose.
Puis Pour te donner une idée, Jeff, lundi dernier, c'était la même chose. On faisait une nouvelle comme quoi, puis je niaise pas, là, c'était exactement ça. Le pétrole descend parce que Donald Trump a annoncé recommencer les négociations. L'Iran disait, non, non, on négocie pas.
C'est ça.
Le mercredi, puis là, on surveillera si ça va être mercredi cette semaine, là. Mais le mercredi, Donald Trump a décidé de bombarder l'Iran. Mm-hmm. Fait que si moi, je veux observer dans ma boule de cristal, je dirais que mercredi, il y a de bonnes chances que Trump bombarde l'Iran.
La boule de cristal de Mathias Turcotte, j'adore ça. Il y a des problèmes de circulation?
Ouais, ben ça, j'ai pas besoin de regarder dans ma boule de cristal pour vous les dire. 20 direction ouest entre Taniatin et Président Kennedy, c'est très, très difficile au rouge. En direction est, c'est entre Taniatin et Avenue des Églises. Puis là, préparez-vous, c'est difficile sur les routes dans beaucoup de secteurs. Il y a un problème présentement, le pont direction nord sur la 73, il y a un ralentissement qui commence à se créer. Je ne sais pas s'il y a un accident sur le pont et que je n'ai pas encore l'information, là, mais ça se peut que le ralentissement s'accélère au cours des prochains instants. En 4, direction sud, hauteur Charest, c'est au rouge. Charest, direction est, hauteur justement d'Henri IV, ça remonte jusqu'à Duplessis, c'est à l'arrêt. Même chose, capitale, direction est, entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuvial, c'est au rouge. Et Laurentienne, direction sud, pas mal un bon ralentissement pour accéder à Capital, quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Merci beaucoup, Mathias Turcotte. Je fais une petite parenthèse sur la discussion qu'on a eue qui a fait excessivement réagir, c'est-à-dire sur un politicien qui enlève tous ses tweets et ses X et ses publications sur les médias sociaux sur une période de 7 ans, parce que oui, il nous a comparé à des femmes battues en théâtre de COVID. Puis aussi, les agriculteurs, c'était quoi, non?
Ah, c'était des hosties de voleurs, ceux qui soutiennent la gestion.
Exactement. Ben, Charles-Étienne nous écrit, chacun sa façon de voir les choses, parce qu'il y avait un auditeur qui nous avait réécrit, moi je vote pour le PCQ tout simplement parce que je suis à droite au niveau économique. Charles-Étienne dit, je me considère aussi de droite économique, mais il est hors de question que je vote pour le Parti conservateur du Québec. D'ailleurs, c'est quoi cette maudite habitude des partis de droite de toujours avoir un bouffon pour les diriger? Bon, là où je suis pas d'accord, moi j'ai beaucoup de respect pour Éric Duhaime, puis du respect pour la façon qu'il monte ces choses, puis la persévérance qu'il a en politique. Par contre, où je suis d'accord, c'est pourquoi les partis de droite s'associent toujours à des groupes extrémistes qui font complètement fuir le reste des électeurs.
Mais pourquoi ils font ce choix-là? Parce que, en toute logique, au Québec puis au Canada, là, si, mettons, tu regardes la courbe politique, automatiquement, le parti le plus à droite, qu'il soit d'extrême droite ou pas, le parti le plus à droite va attirer les extrêmes parce que c'est l'option de droite.
En effet.
La personne d'extrême droite, ben c'est l'option qui va la rejoindre le plus, même si le parti n'est pas à l'extrême. Tu t'en vas à gauche, c'est le même principe.
Oui.
Ton parti plus à gauche va attirer les extrémistes de gauche.
Ah oui, les marxistes-léninistes de ce monde.
Que tu le veuilles ou pas, ces personnes-là vont devenir dans ta base électorale automatiquement.
Donc, à cet effet-là, durant mes vacances, j'ai vu la naissance de Démocratie directe.
Non. Ah ben ça va presque aider le Parti conservateur.
Je me suis amusé sur les médias sociaux. T'as pas idée comment je me suis amusé à écouter les vidéos et à lire les commentaires.
T'as-tu compris comment ça fonctionnait? Parce qu'on se posait la question la semaine passée.
Pas encore, mais sûrement qu'à mon 52e vidéo, je vais le comprendre. Ben là, le Parti conservateur du Québec a une chance en or de se séparer de ces hulu-berlus-là qui polluent leur espace public. Laissez-les à Démocratie directe. Puis revenez juste un petit peu plus vers le centre, puis des électeurs comme moi m'ont voté pour vous autres.
C'est un beau message, ça, Jeff. Laissez des extrémistes à Démocratie directe, puis vous autres, concentrez-vous sur vos vrais enjeux. C'est une bonne stratégie.
Mais non, mais c'est vrai. Puis là, vous allez risquer d'attirer des électeurs comme moi, qui est plus au centre, comme je le dis, un petit peu plus à droite au niveau économique, un petit peu plus à gauche au niveau social. C'est mon passé dans le communautaire, je l'assume. Alors, débarrassez-vous de ces gens-là. Laissez-la Démocratie directe. Hey, quand je voyais les posts de Démocratie directe. OK, on veut 9980. Là, j'étais là, mais non, mais ouais, on a.
C'est décourageant. Pour vrai, puis, tu sais, c'est correct. Là, peu importe la partie a droit de se lancer, mais Tu sais, c'est comme plein de personnes. T'as Éric Gravel, t'as Sarto Lacroix de 9999, puis plein de personnes qui se sont lancées de même. Le live d'ouverture pour annoncer leur participation
au parti. Ah, il était incroyable.
C'était que des sacres. T'avais un sacre aux deux mots.
Incroyable.
Comment tu veux prendre ça au sérieux quand ça passe sur temps à sacré?
Sur Facebook, j'ai lu le parti Rhinocéros est en train de revivre de ses sons. Ah, ils m'ont amusé durant mes vacances, démocratie directe. Ah, ça prend tout pour faire un monde. OK, après cette courte pause à l'émission, on en jase. Je voulais te dire, j'étais content de refaire de la radio après 3 semaines de vacances. Ah, stiff que je suis content. Mylène Bégin, éleveuse laitière, copropriétaire à la ferme Princy, sûrement une suite voleuse, selon Dominique Dumas, va être avec nous. Elle, c'est une agriculteure, travaille très fort, doit travailler 100 heures par semaine. Elle est sur les médias sociaux. Elle fait une présence sur les médias sociaux. Pourquoi? Pour justement démystifier les mythes. Peut-être dire, hey, inquiétez-vous pas, on prend soin de nos animaux. Nous autres, on n'est pas des voleurs qui prennent pas soin de leurs animaux juste pour faire de l'argent. Sa présence sur les médias sociaux est très appréciée, mais elle reçoit aussi beaucoup de commentaires haineux.
Ça m'étonne. Je vois pas qui pourrait être fâché de ce café.
Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont fâchés de mon truc qu'elle prend soin de ses vaches.
Eh bien, ça, c'est des particuliers.
Hein. Ouais, quand je dis que ça prend tout pour faire un monde, ben on va jaser avec Mylène Bégin au retour de cette pause à l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Vous êtes à l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Mathias Turcotte. C'est votre trio pour les 3 prochaines semaines à l'émission On en jase. On va avoir bien du plaisir à vous divertir, à vous informer, à vous faire réagir. On aime beaucoup à l'émission On en jase parler avec des gens qui sortent de l'ordinaire. Des gens qui travaillent fort. Des gens qui disent « Hey, moi, savez-vous quoi? Je vais la faire fleurir mon entreprise parce que je vous le dis. » Moi, je suis toujours impressionné par les entrepreneurs qui se lancent en affaires. Qui se disent « OK, c'est beau, je mets tous mes œufs dans le même panier puis je vais réussir. » J'ai jamais eu ce guts-là et ça m'impressionne énormément. Et là, dans les prochaines secondes, on va parler avec Mylène Bégin, qui est éleveuse laitière, copropriétaire de la ferme Princy. Jeune mère de famille, parce qu'on va peut-être entendre son bébé en arrière, travaille à peu près 100 heures par semaine, et fait des capsules sur les médias sociaux, justement, pour démystifier les mythes de la production laitière. Alors, elle est au bout du fil avec nous. Mylène, comment vas-tu?
Ça va super bien, vous?
Ça va super bien. Mylène, tu peux me tutoyer en passant, là, ça va me faire plaisir. Est-ce que je t'ai bien décrit?
Oui. Exactement, oui. Productrice laitière de 4e génération de l'entreprise familiale.
Incroyable. Est-ce que tu as toujours su que tu ferais ce métier-là?
Au départ, quand j'étais au secondaire, j'étais pas certaine parce que me lever à 5 heures du matin, c'est pas ça qui m'intéressait le plus. Mais le travail avec les animaux, ça a vraiment été ça ma piqûre, puis finalement, aujourd'hui, je me lève plus à 4h moins 10.
C'est incroyable. Tu travailles combien d'heures par semaine?
Je suis sur un retour de congé de maternité. Okay. Mais on peut dire un bon 60 ouais. minimum, là, parce que là, j'ai ma jeune famille.
Oh, oui, t'es copropriétaire avec d'autres membres de ta famille ou avec des jeunes de l'extérieur?
Avec mon frère et mon père.
Ah, c'est magnifique. Bravo, bravo, bravo pour l'entreprise familiale. Là, tu t'es lancée sur les médias sociaux, Mylène. Tu fais des capsules pour démystifier des mythes qu'il y a en production laitière. Pourquoi tu as eu cette idée-là?
C'est qu'au départ, quand j'ai commencé mes médias sociaux, c'est que j'ai voyagé. Puis j'ai voyagé jusqu'en Australie. Je voulais que les gens d'ici voient c'était quoi l'agriculture là-bas. Et une fois revenue à la ferme familiale, je voulais que les gens là-bas voient c'était quoi l'agriculture d'ici parce que le pays est différent, le décor aussi et toute méthode agricole, même si on traite des vaches, là, c'est complètement différent. Et puis un jour, j'ai mis une photo que j'avais un petit veau dans mes bras, quelque mm-hmm. chose de tout à fait mignon. Et je reçois un commentaire écrit « Est-ce que c'est comme ça que tu vas apporter ton animal à l'abattoir? » Donc, une image aussi mignonne soit-elle, avec un commentaire aussi désagréable. Donc, je me suis dit, ah, oh, OK, il y a de l'information qui se fait pas à quelque part. Là. Donc, de là, j'ai commencé à vouloir faire des capsules et des publications pour informer les gens.
Est-ce que tu avais été surpris de ce type de commentaire-là? Parce que toi, tu mets ça pour que ça soit cute, justement.
Oui, totalement. Je me demandais où est-ce qu'on pouvait trouver de la méchanceté en regardant une photo aussi mignonne, on s'entend?
Oui, c'est ça.
Oui. Ouais. Ça a été le début d'un gros montagne russe. Ça a été un commentaire, là, mais après ça, je crois qu'ils se créent des groupes entre eux, les extrémistes, pour dire comme aller attaquer quel compte. Après ça, c'était du 100 à 200 messages là, par jour là, que je pouvais recevoir là, de haine puis des messages du genre.
OK. Et puis sur des publications de quel genre?
Justement, là, avant de commencer à faire des publications pour démystifier des mythes, c'était plus souvent des photos mignonnes.
Ouais.
Donc, de là, pourquoi c'était surprise de recevoir?
Puis là, tu avais de 100 à 200 commentaires haineux parce que tu mettais une belle photo de tes animaux.
Ah, oui. Moi, j'étais une abuseur. J'étais tout ce qu'on peut imaginer de violent. Là.
Complètement capoté.
Je me levais une heure plus tôt à tous les matins que pour filtrer, bloquer des gens, supprimer des commentaires haineux. Je me levais une heure plus tôt que pour filtrer avant d'aller travailler pour aller traire mes vaches.
Puis ça t'a-tu découragé? Comment tu te sentais là-dedans, toi?
C'est sûr qu'au départ, je me suis sentie légèrement en danger pendant un certain moment. Je me demandais dans quoi je me suis embarquée. Quand toute cette grosse vague-là là, a commencé vraiment entre 2017 puis 2019, là, j'ai fait beaucoup d'entrevues radio, là, un peu comme qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement. Puis un policier qui m'a entendu et qui est venu cogner lui-même à ma porte, venir me porter sa carte d'affaires, me disant « Si tu te sens vraiment menacé, là, quelqu'un te pointe directement quelque chose de violent à toi. » Il dit « Appelle-nous, puis nous, on va s'organiser pour aller cogner à sa porte. » Puis c'est arrivé une fois, là, justement, là, qu'une dame m'avait dit « Moi, je vis à Montréal, j'ai une voiture, je peux faire le 8 heures de route, aller prendre des photos chez vous pendant la nuit, question de montrer à tout le monde comment vos animaux sont maltraités. » Ben eux, l'équipe de police de Montréal ont été cognés à sa porte, là.
Aïe, aïe, aïe. Tant mieux si cette intervention-là a été faite. Pourquoi tu persévères sur les médias sociaux? Puis là, comment ça se passe? Explique-nous un peu le type de capsule que tu fais.
Pourquoi est-ce que je persévère? C'est qu'en fait, je me dis, ces groupes haineux-là, pour eux, dans leur tête, ils ont leur vérité, mais nous, les producteurs, on le sait que c'est des mensonges. Et je me dis, c'est ça qu'ils veulent nous faire taire. T'sais, il y en a plusieurs des producteurs qui viennent m'écrire comme « Hey, moi, j'ai abandonné les médias sociaux parce que j'étais écœurée, j'étais pas capable, c'était une charge mentale de trop. » Ben, j'ai une bonne tête dure.
Je te félicite.
J'ai une bonne tête de cochon. Puis là, je me suis dit « Hey, si je ferme tout, je les fais gagner. »
Je les fais gagner,
ces gens-là. Fait que je me dis, pour le citadin moyen là, qui est vraiment curieux et qui cherche vraiment à s'informer pour de vrai, là, pourquoi est-ce que je continuerais pas? Puis depuis ce temps-là, là, c'est ma plus belle paye quand j'ai des gens qui viennent m'écrire là, « Hey, merci beaucoup, j'en ai appris aujourd'hui. » Puis, tu sais, des commentaires positifs, en vrai, plus de nos jours, là, parce que la vague de haine, là, ça l'a vraiment été avant la COVID. Là. Après, pendant la COVID, c'est comme s'ils ont réalisé ces gens-là qui mangeaient trois fois par jour puis qui dépendaient de nous.
J'adore.
Mais sinon, je dois recevoir 10 commentaires super positifs pour un vraiment là, violent comme j'ai reçu la semaine dernière. Mais les violents, ils jappent fort. Là, c'est ça l'affaire.
Oui, c'est ça, exactement. Puis le type de commentaire, justement, c'est quoi que ça te dit, le commentaire violent de la semaine dernière?
Ben là, est-ce que j'ai le droit de dire ça en nombre?
Oh, écoute, vas-y, il n'y a pas de problème. On veut justement, nous, traiter de cette haine-là sur les médias sociaux pour la décrier puis la faire arrêter.
OK. Ben on m'a souhaité que je me fasse violer. On souhaite que tu te fasses violer comme tu agresses tes animaux. C'est exactement mot pour mot ce qu'on m'a écrit la semaine passée.
Ça n'a aucun sens, Mylène. Félicitations de ton courage de persévérer. Mylène Bégin, qui est éleveuse laitière, copropriétaire à la ferme Princy. Tu fais un malheur sur les médias sociaux avec tes capsules, notamment sur TikTok. Ça te demande combien de temps d'investissement?
Ben là, je suis peut-être un petit peu moins sur TikTok. Là, j'essaie de développer de plus en plus la page Facebook. Là. Comment que ça me demande de temps? Hey, sérieusement, là, moi, c'est faut que ça soit du one take. Là. Quand je tourne, il faut que ça soit du une shot parce qu'on dirait que ça perd son petit naturel. Là. J'aime vraiment ça. Je pense que je suis une personne quand même assez bubbly et expressive. Là. S'il faut que je reprenne deux fois, j'aime mieux annuler là, la vidéo. Mais pour vrai, là, ça me prend de 2 à 5 minutes tourner une capsule, puis je publie ça le soir, là, à l'heure que les gens souvent ils ont comme fini de souper puis qu'ils s'écrasent sur leur divan pour faire du téléphone. Là.
Ah, t'as la bonne stratégie. Mylène Bégin, ça a été un plaisir de te parler. Félicitations pour ta tête de cochon.
Merci.
Je te confirme que t'es très expressif. Puis je te souhaite bonne chance. Hey, pas trop. Je te souhaite de profiter de ta famille, de ta maternité à plein. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, une belle famille puis des beaux enfants. Puis félicitations d'avoir ta ferme avec ton frère et ton père. Je trouve ça vraiment beau.
Ben merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Au plaisir de se reparler, Mylène.
Oui, yes.
Salut. Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Salut. Mylène Bégin, éleveuse laitière, copropriétaire à la ferme Princy, qui s'est fait écrire « J'espère que tu vas te faire violer, maltraiteuse d'animaux. »
Des sans-génies.
Moi?
Ben, c'est ridicule.
Puis je sais qu'il y a deux courants de pensée avec les médias sociaux. Il y a un courant de pensée de gens qui disent oh, « On donnera pas d'exposure aux commentaires haineux, fait que comme ça, il va arrêter. » Non, moi, je veux que le monde sache que ces cabochons-là existent. Je veux que le monde s'élève contre ces gens-là. Faut plus que jamais, quand vous recevez des commentaires haineux, que vous challengez ces personnes-là. Faut qu'ils disparaissent. Puis la meilleure façon de les faire disparaître, ça va être de les faire passer pour ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, des imbéciles. Aussi simple que ça. Hey, ça a-tu pas de sens de recevoir ça?
Ah non, mais...
Hey, des groupes, puis elle l'a très bien dit, là, c'est des groupes qui s'organisent. Là. Hey, c'est parce que là, je suis passé de 1-2 commentaires à 100-200. Tu sais, c'est la même chose ici à Boulevard, on le voit, là. On fait juste écrire, ah, le maire marchand va être en onde. Là,
ah, ça
là la gang de respect
ben
citoyen, paf, viennent envahir notre page puis nous envoyer chier sur notre propre page.
Puis, je veux dire, là, on atteint comme un niveau où tu souhaites du malheur, mais à un point, là, de souhaiter à une femme de se faire violer.
Ben oui. À une mère de famille qui est copropriétaire d'une ferme avec son père et son frère qui travaille 70 heures par semaine.
Respire, là. Toi, tu devrais plus avoir le privilège d'avoir un clavier entre les mains et de pouvoir t'exprimer dans un espace public.
En effet, parce que ça, c'est pas de la liberté d'expression.
Non, non, vraiment pas.
Ça, c'est des menaces.
Ah, 100%.
Ça, c'est judiciaire que ça doit se traiter. Ah, mais bon... C'est que veux-tu? On va continuer d'en parler ici à l'émission On en jase de ces commentaires-là sur les médias sociaux. Faut se soulever de plus en plus contre cette haine collective puis reprendre le contrôle du narratif. Nous qui sommes des gens équilibrés. Dernière pause de l'émission On en jase. Il annonce des orages violents sur Québec. Cet après-midi, la pluie est commencée très fortement. On va parler avec Nicolas Lessard, météorologue, pour mettre Théo Média de tout ceci au retour de la pause, puis on va faire quelques petites manchettes. Émission d'En jase de ce lundi 3 août. Très content d'être avec vous, très content d'être de retour de vacances. Parlant de retour de vacances, ben oui, Denis Gravel revient de vacances également. Véro Bergeron aussi. Audrey Pinchot aussi. Ils seront là, le trio, pour une 5e année consécutive sur les ondes de Boulevard 102.1 à compter de 14 heures. Je suis convaincu que Denis va avoir énormément de choses à vous raconter concernant ses vacances. Il est allé voir la AEW, la lutte professionnelle du côté de Montréal. Donc, il va sûrement parler de ça, du SummerSlam. Il va nous parler d'angine de poitrine. Il va parler de ses nombreuses publications sur les médias sociaux. Denis est en feu. Alors, bien, bien hâte de l'écouter dans le retour de Gravel qui suit immédiatement l'émission On en jase. 418-971-1021 pour interagir avec nous et l'application Boulevard qui est disponible gratuitement sur Google Play et App Store. Mathias, circulation?
Oui, il y a un beau bordel sur les routes un peu partout en ce moment. Puis je vous disais un peu plus tôt qu'il y avait un problème là, pour accéder au pont Pierre-Laporte en direction nord. Mm-hmm. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à la hauteur du boulevard Champlain, il y a un accident qui bloque la voie de droite. Donc, en sortant du pont Pierre-Laporte en direction nord, la voie de droite qui est bloquée, ça remonte présentement tout le long du pont, puis un peu sur la 73 en ce moment vis-à-vis des chutes de la Chaudière. Là, c'est du pare-choc à pare-choc. En direction sud, ça fait un ralentissement sur Duplessis parce que, bien sûr, le monde ralentisse pour voir ce qui se passe sur l'accident. 20 direction ouest, c'est installé entre Taniata et Président Kennedy. C'est au rouge aussi très, très difficile dans le secteur. En direction est, entre Taniata et Avenue des Églises, c'est au rouge aussi. Maintenant, sur la rive nord, d'autres endroits où c'est très difficile actuellement. Henri IV, direction sud, hauteur Charret. Quand même pas mal d'attentes dans le secteur. Même chose pour Charret en direction est. Je vous dirais entre Robert Bourassa puis Duplessis, c'est au rouge actuellement. Capitale, direction est, entre Pierre-Bertrand et Boulevard Neuvial, au rouge aussi. En direction ouest, il y a un ralentissement entre Laurentienne. Ça remonte jusqu'à Seigneurial en ce moment, mais c'est comme pas un ralentissement constant. Là. Il y a comme des ralentissements par-ci, par-là. Et je termine avec Laurentienne, direction sud. Quand même pas mal d'attente pour accéder à Capitale. Donc, on se serait dit sur une heure de pointe en ce moment.
Exactement. Et c'est dû à la météo. D'ailleurs, on va parler avec un météorologue de Météo Média, Nicolas Lessard, dans quelques instants. Mais avant, Mathias, quelques manchettes.
Oui, je commence par les agents de bord et WestJet qui ont conclu une entente de principe ce matin. Donc, la grève est terminée. Les activités qui vont reprendre tranquillement, pas vite. Il y a des centaines de vols qui ont dû être annulés par la compagnie aérienne. Va rester à voir si les agents de bord acceptent ou non cette entente de principe-là. Là, je vous le précise, si jamais ils refusent, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on retourne en grève pour autant. La plus récente explosion de rougeole au Québec qui est maintenant terminée. C'est 28 cas qui avaient été recensés partout au Québec.
Hey, ça sert à rien, le vaccin! Ils vont mettre une puce!
Ben, la rougeole qui était quand même revenue en force, puis on avait quelques cas dans
la capitale. Parce qu'on ne fait pas vacciner nos enfants!
Et c'est une des raisons, effectivement. Puis on avait eu une explosion dans la capitale nationale dans le secteur de Pont-Rouge. Bien maintenant, c'est résolu. Il faut attendre un total de 32 jours sans qu'il y ait de nouveaux cas pour dire que vraiment l'explosion est terminée. Ça a été le cas au Québec, donc plus de cas de rougeole. Et je vous signale que le RTC va mettre en place un service de navettes pour le Festival Cigale du 7 au 9 août prochain. C'est des navettes qui vont partir du centre-ville de Charlebourg et de Beauport pour se diriger vers la baie de Beauport. Le vendredi, on part de navettes entre 18h30 et minuit 30 pour les deux jours de fin de semaine, 14h45 jusqu'à minuit 30. C'est des navettes qui vont circuler de 15 à 20 minutes.
On rejoint à l'instant même Nicolas Lessard, météorologue pour Météo Média. Nicolas, merci beaucoup d'être disponible ce midi pour nous à l'émission d'En Jase.
Bien, merci de l'invitation.
Nicolas, quoi s'attendre à l'heure actuelle pour la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches? Est-ce qu'on va être frappé par cette vague d'orages violents?
C'est possible. En fait, en ce moment, là, à l'heure actuelle, il y a des veilles d'orages violents pour le secteur de Québec, plusieurs régions de la Rive-Sud aussi, entre Montréal et Québec. C'est vraiment par précaution, parce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'on ait un peu là, d'orages possiblement forts. On parle de petits grêlons, longs, vents qui peuvent dépasser les 90 km à l'heure localement. Mais surtout, aujourd'hui, c'est la pluie. Donc, depuis déjà ce matin, je pense que vous avez quelques rondes de précipitations abondantes. Bon, une à l'heure actuelle, d'ailleurs. C'est pas mal ça là, qui est le risque principal aujourd'hui.
Parfait. Donc, on peut s'attendre à combien de millimètres de pluie sur la grande région de la capitale nationale?
Bien, localement, tout dépendamment du comportement des orages, puisqu'on se rappelle que les orages sont très localisés. Hein, c'est des cellules qui font quelques kilomètres au plus. Donc, il peut avoir une pluie très, très forte pour, mettons, Québec, puis à Lévis, il peut faire beau soleil. Donc, aujourd'hui, c'est pas vraiment ça le contexte, mais on a quand même des cœurs, des noyaux de précipitations un peu plus intenses. Donc, pour la région de Québec, là, ça pourrait dépasser les 50 mm possiblement d'ici la fin de la journée.
Et moi, la question que j'ai pour vous, M. Lessard, puis là, je sais que c'est difficile de prévoir la météo, mais est-ce que ça va tomber pour de vrai? Puis je m'explique, j'ai comme l'impression que ça fait une couple de jours qu'on nous annonce des grosses averses, puis finalement, ça vient comme pas ou ça vient à moitié. Là, est-ce qu'on peut s'attendre que ça tombe pour de vrai?
Bien, je vous dirais, aujourd'hui, ça va être plus une journée de pluie. Comme je vous dis, les avertissements, là, les veilles d'orages violents en ce moment, c'est vraiment par mesure préventive, parce qu'il y a même un ingrédient assez particulier qu'on appelle le cisaillement des vents, qui pourrait mener brièvement à une rotation dans les nuages, donc une possible tornade. On parle d'une faible possibilité quand même, surtout pour Chaudière-Appalaches, la Beauce, donc un peu moins pour Québec. Mais les conditions sont là, donc on a des vents en vigueur. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, ça va être vraiment plus de la pluie, parfois forte, une journée grise, plutôt que des gros, gros orages très, très costauds en tant que tel. Mm-hmm.
Une région qui ne sera pas épargnée, je crois, c'est la région du Saguenay. Est-ce que je suis dans le temps?
Ben, je voudrais qu'aujourd'hui, il n'y a pas grande région qui épargne à la pluie, à l'exception de l'Abitibi jusqu'à même. Donc, Saguenay, Québec, bon, Montréal, c'est terminé. Là, le front est passé, mais pour ce qui est de Chaudière-Appalaches, l'Estrie, et même en allant vers le Bas-Saint-Laurent, c'est pas terminé du tout. Là, toutes ces régions devraient avoir au moins un peu de pluie aujourd'hui.
Pour le reste de la semaine, ça va être du soleil pour la région de la Capitale-Nationale?
Bien, voyez-vous, ce système-là va un peu changer l'atmosphère. Donc là, l'humidité devrait être chassée un peu. On devrait également chasser les nuages. Donc là, demain, mercredi, très belle journée. Par contre, pour le reste de la semaine, ça se complique un peu. On a un autre système qui arrive avec, encore une fois, possiblement des orages et des précipitations.
Ces systèmes-là arrivent de quel endroit, Nicolas?
Généralement, ça arrive, Texas, Colorado, des systèmes qui, justement, là, qui sont très, très humides, qui vont puiser l'humidité du golfe du Mexique et qui l'amènent jusqu'à chez nous. C'est pourquoi on a, justement, un fond d'air assez collant, assez lourd et aussi des précipitations très abondantes.
Nicolas Lessard est météorologue pour Météo Média. Je te remercie infiniment pour ta présence avec nous en jase et au plaisir de se reparler.
Merci, bonne journée.
Salut Nicolas. Nicolas Lessard, météorologue. Donc, attendez-vous à de la pluie rien qu'en masse, 50 mm de pluie. Après une couple de journées de soleil, on verra pour ce week-end. Mais t'as raison de dire, hein, moi je suis revenu samedi, puis depuis samedi, c'est hyper humide.
Oui. Puis il annonce de la pluie chaque jour.
Oui, mais non. Moi aussi, je suis comme en attente de, bon, ah ouais, ça va-tu tomber que les nuages sont là? Mais non, c'est là, ça reste. C'est
présent. Ça reste présent, puis j'ai une blonde, puis je pense pas que... Vous êtes en majorité, là. Mais ma blonde aime beaucoup quand il pleut. Elle adore la pluie, elle ouvre la fenêtre, ça donne une petite ambiance. Je pense que ça lui donne aussi une raison pour faire une journée plus relaxe puis pas se sentir coupable de pas aller profiter de l'extérieur aussi, là. Mais elle aime beaucoup la pluie, fait que moi, ça fait une couple de jours qu'elle me parle. Maudit, il n'y a pas encore plu aujourd'hui. Maudit, il annonçait de la pluie. Puis ça fait deux semaines que c'est comme ça. Fait que je me dis, bon, là, ça va peut-être finir par tomber pour vrai. Là, à son bonheur.
Texto très drôle qui rentre. On taxe les États-Unis pour la pluie qui provient du Texas et du Colorado. Ouais, puis il y a beaucoup de feux de forêt aussi aux États-Unis présentement.
Ouais, du côté de Washington, si je ne me trompe
ouais,
pas.
Ouais, c'est ça. On ne souhaite jamais de feux de forêt à personne. Mais je ne sais pas si Mark Carney va sortir pour dire, hey, gagnons ça, m'a demandé. Une taxe à la frontière pour la boucane.
Je verrais peut-être plus Doug Ford sortir en baveux. Là,
oui, c'est vrai. Ça serait beaucoup plus du style de Doug Ford. On termine l'émission en vous rappelant que c'est l'Omnium de tennis, Banque nationale à Montréal, et que malheureusement, ben, la pluie est venue freiner jusqu'à présent la journée. Mais normalement, autant les Québécois Alex Gallarneau que Gabriel Diallo devraient jouer aujourd'hui. Félix Auger-Aliassime sera en action demain soir. Il devrait avoir de la meilleure température à Montréal pour les prochains jours. On réclame un toit sur ce stade de tennis à Montréal pour en faire justement un centre d'entraînement à l'année pour le tennis, ce que je trouve qui est une très bonne idée. Donc, ce sera à suivre du côté de Montréal. Et également, bien dans le baseball majeur, c'est la dernière journée pour les transactions. Les Jays de Toronto ont été actifs depuis hier. Kevin Gausman est parti pour les Cubs de Chicago, donc l'excellent artilleur des Jays qui en était à sa dernière année de contrat. Mais les Jays ont fait une très belle prise aujourd'hui où ils sont allés chercher le lanceur des Angels de Los Angeles, José Soriano, qui est sous contrat jusqu'en 2028. Soriano a 3,29 de moyenne de points mérités en 22 départs, 9 victoires, 6 revers avec les Angels. Très belle prise pour les Jays qui connaissent malheureusement une saison plus difficile cette année avec 8 défaites de plus que de victoires. Ils ont 52 victoires et 60 revers. Mathias Turcotte, on fait ça demain midi?
Yes, sir, à demain.
C'est le grand retour de Denis Gravel après cette courte pause à Boulevard 101.